Dans le tempo, c'est l'épisode 23. On est parti.
Bonjour.
Thomas présente. Dans le tempo. Bienvenue dans DLT. Vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, a.k.a. le seul podcast.
Le seul podcast qui ait jamais existé. Abonnez-vous.
Oui. C'est parfait. Je suis avec mon gars Chronomusic, évidemment. Vous l'avez reconnu.
Malgré le masque.
L'homme au disque d'or.
L'homme au disque d'or, tout à fait.
Non, je dis ça parce que t'aimes bien le rappeler, Michel.
Et bientôt platine.
C'est vrai?
Sachez-le, bah oui. Bien sûr, Salman, enfin.
Pour vous dire, j'ai pas n'importe qui quand même à mes côtés. L'homme est bientôt disque de platine.
Oui.
Et puis, comme à chaque épisode, évidemment, on est avec un invité.
De qualité.
Et aujourd'hui, c'est Sofian Fanen qui est avec nous.
Bonsoir.
Journaliste, bonsoir, quelle voix en plus, homme de radio entre autres. C'est un plaisir de te recevoir
de même.
Parmi nous. Et si on te reçoit, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on aimerait
aborder...
Oui, absolument, une thématique.
J'étais là devant.
Je suis passé par là.
Ouais. Mais, ça, c'est... Mais en plus, t'es pas très loin, ça aurait pu se passer comme ça. Non, l'idée en fait, c'est de... On t'a convié parce qu'on souhaite parler de l'écoute de musique sur Internet aujourd'hui. Avec, dans l'idée de pas forcément revenir sur, on le sait, il y a eu un bouleversement, le streaming a tout changé, évidemment, dans l'industrie musicale, etc. Partons de ce principe, on le sait, c'est acté, c'est un nouvel usage aujourd'hui, en tout cas des usages, mais on a tendance parfois à voir tout ça un peu comme quelque chose d'assez figé. C'est-à-dire que on a des grosses plateformes, un modèle très installé, etc. Or, c'est un mouvement permanent. Il y a des guéguerres, évidemment, entre les différents acteurs. On propose aussi régulièrement de nouveaux usages aux gens, etc. On pourrait parler de TikTok, de plein de choses. Et l'idée, là, ce serait un peu de se questionner autour de faire une espèce de panorama des grands enjeux, des grands défis actuels autour de l'écoute de musique sur Internet. Notamment le streaming, mais pas que. Et il nous semble que tu es la personne appropriée pour parler de tout ça. T'es calé, en tout cas, ça te passionne.
On va voir, en tout cas, c'est mon boulot.
Parce que moi, j'y connais rien. Faire des millions de streams, je sais faire.
Ah oui,
mais
disque de platine.
Voilà, je ne sais pas. Mais...
Et peut-être que tu peux justement nous présenter un peu,
Sofian.
Bien
sûr, à tout moment, je sors mon téléphone, regarde ça comme j'ai dégainé ça. Avant même que tu le dises, t'aurais même pas eu à le dire, j'aurais enchaîné.
Il est de plus en plus professionnel, c'est impressionnant.
J'écris ça dans le Uber. Donc, Sofian Fanen, tu es donc journaliste, tu es cofondateur de Les Jours, qui est un média indépendant sans publicité.
Abonnez-vous.
Non, ça c'est nous,
abonnez-vous.
Bien sûr, on est dans le communisme. Je te cite, j'écris sur la musique, de sa composition à sa distribution. La vie des artistes a été trop transformée par Internet pour ne l'aborder que d'un point de vue artistique. Je m'intéresse donc aux chansons et à leur fabrication, mais aussi à leur économie et en particulier au streaming. Donc tu es aussi l'auteur de Boulevard du Stream, ton livre que tu vas vendre.
Montre-le nous, la caméra est là. Montrons-le à la caméra.
Je l'ai amené pour une fois, j'en profite.
Ouais,
bien sûr, il faut le feuilleter.
T'as
bien fait.
Pour qu'on voie le grammage.
Très beau papier.
c'est chez qui
C'est chez Castor Astral, qui est une belle maison qui fait des bouquins sur la musique.
Oui, on les embrasse très fort. Et donc, avant de cofonder Les Jours, tu étais chef adjoint du service culture de Libération.
Yes.
Tu as fait aussi un documentaire écrit et dessiné avec Vincent Vanoli.
Yes.
Pour Radio France en 2013.
Ouais, sur Barbara Dane, qui est une incroyable chanteuse américaine des années 50.
Qu'on embrasse également.
Qu'on embrasse toujours, parce qu'elle va très bien.
Mais tu
collabores souvent avec Radio France d'ailleurs.
Oui, je collabore assez régulièrement avec Radio France, c'est un peu ma deuxième maison. Je fais des documentaires, notamment pour France Culture, assez régulièrement, en tout cas tous les étés.
Ouais. Aussi un docu pour Arte, de Traina, le son du Norsk. Alors, ouais. Est-ce qu'on dit le son du Norsk, le son du Norsk?
Mais qu'est-ce que c'est? On ne dit pas, c'était une
sorte de... Le nom est étrange.
Oui, c'était une aventure assez alcoolisée, disons-le.
Oh là là,
dans un festival qui se passe effectivement sur l'île de Traina. Et Traina, c'est une île qui est au sud des Lofoten, donc vraiment à la limite du cercle polaire.
D'accord.
Et l'été, il y a un festival qui se déroule là-bas, donc la nuit ne tombe jamais sur le festival, si ce n'est une sorte de chien et loup vers 2h du matin.
Okay.
L'île fait 200 habitants en temps normal et il y a 2000 festivaliers qui débarquent pour quelques jours.
Les locaux doivent être contents.
Et les locaux sont contents parce que ça leur fait de la vie. Sinon, le reste du temps, à part les chèvres et les chiens, il n'y a pas grand monde. Et c'est un festival assez incroyable et où on ne sait plus vraiment l'heure qu'il est assez rapidement parce qu'il fait toujours la même lumière en fait. Et c'est assez.
Ça doit être très.
C'est une vraie aventure.
Je vais regarder Traina, le son d'une Ursk.
Voilà.
Et tu dis surtout, j'adore faire des playlists.
Et ouais.
C'est ton dada.
C'est mon dada.
Et ton obsession est écouter tous les disques du monde un jour.
C'est pas encore fait.
Mais j'y bosse. Tu te laisses combien de temps pour pouvoir écouter tous les disques du monde?
Jusqu'à la mort. j'y arriverai pas visiblement. Et surtout en plus depuis qu'il y a le streaming, vraiment.
C'est sûr
que j'y arriverai jamais.
Beaucoup de sorties. Écoute,
c'est parfait ce que tu nous dis, puisque justement on va beaucoup parler streaming dans cette émission, mais même j'ai envie de dire plus généralement étendre le sujet et se poser des questions du type, par exemple, est-ce qu'on peut consommer aujourd'hui de manière éthique de la musique? Parce que c'est un truc qui se pose de plus en plus.
Ah, je ne peux me poser que cette question.
Bah, non, mais c'est vrai, surtout sur la rémunération des artistes, ce genre de choses, etc. On va se poser cette question-là. Les découvertes musicales aussi. Est-ce que réellement, à travers le streaming, entre autres, on peut découvrir de la musique? Est-ce qu'on est trop orienté? Comment fonctionnent les algos, etc. Est-ce qu'il y a d'autres façons de découvrir de la musique? Bref, ça fait beaucoup de sujets, mais ça va être passionnant, j'en suis persuadé.
On a toute la nuit après tout.
Exactement, oui. Exactement. Il est en gros 9h30, on se lève jusqu'à 3h du matin.
Voilà. De toute façon, à Paris, il fait noir tout le temps. Donc,
oh non.
On ne verra pas. C'est comme c'est l'inverse de Traînard.
C'est l'inverse de Traînard,
exactement.
Ce que je vous propose, c'est qu'on divise un peu la discussion en plusieurs parties.
Ok, d'accord alors.
Et pour commencer... T'as pas trop le choix, de toute façon.
Je me sentais bien.
Et pour commencer, peut-être intéressons-nous un peu à une forme d'état des lieux, des usages et des modèles disponibles aujourd'hui sur Internet. Et j'ai une première question un peu provoque, entre guillemets, mais est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec le streaming? Ce que je veux dire par là, c'est que pour juger aujourd'hui de l'impact d'un artiste, on va tout de suite regarder les streams qu'il fait sur Spotify en particulier, les classements sont extrêmement importants, etc. Parce qu'il y a d'autres façons d'écouter de la musique, quand même aussi sur Internet, il n'y a pas que le streaming. Est-ce que tu penses que c'est justifié la place qu'on donne aujourd'hui au streaming?
Oui, enfin, si on est purement économique, si on regarde les chiffres, le streaming a mangé l'industrie de la musique, enfin le secteur de la musique. Donc, il y a pas d'économie de la musique, il y a pas de musique sans streaming aujourd'hui. Mmh. Il y a pas de musique sans streaming. Si, en fait, il y a plein de musique sans streaming. De fait, on peut en parler après. Mais globalement, la musique, c'est le streaming. Aujourd'hui, le reste c'est peanuts quoi. C'est marginal.
T'as quelques chiffres, j'en ai trouvé quelques-uns.
J'ai jamais les chiffres en tête, mais vraiment aujourd'hui en France typiquement le streaming c'est plus de 80% du marché en termes économiques. Donc c'est gigantesque. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est surtout que ça a avalé les usages. Les usages sont sur le streaming aujourd'hui et on va pas revenir en arrière. Et le streaming, on en parle aussi beaucoup parce que c'est une révolution majeure. On s'en rend pas forcément compte quand on l'a toujours vécu ou quand on l'a vécu au fur et à mesure. Mais moi, je dis souvent à mes élèves, je donne des cours là-dessus, que la double révolution de la numérisation, enfin la libération de la musique numérisée avec le MP3 au tout début des années 2000, puis 15-20 ans après l'arrivée des plateformes de streaming, c'est une révolution qui est de même magnitude que l'arrivée à 100 ans d'écart, 100 ans avant, de la musique enregistrée en disque et de la radio, à peu près 20 ans après. On est dans ce genre de truc-là, c'est-à-dire que, en fait, ça change tout. Ce que ça change pas, c'est que la musique était déjà enregistrée avant. On avait déjà de la musique enregistrée. Mais dans le monde de la musique, dans la façon de produire la musique, de la distribuer, de la fabriquer, de la composer, de l'écouter, de la rémunérer, de la découvrir, ça a changé. Il y a aucun aspect, même le live en fait est touché par le streaming. Il y a des conséquences fortes de l'économie du streaming dans le live. On n'écoute plus du tout la musique de la même façon. Bah, par exemple, aujourd'hui, un artiste, il sait exactement où il est écouté. À l'époque du CD, il savait à peu près qu'il pouvait vendre des disques dans tel magasin, mais en fait, il fallait peut-être aller mettre les disques dans le bac pour savoir si on allait les vendre.
Tu veux dire qu'on a plein de data, en fait, de
aujourd'hui,
données.
Aujourd'hui, on a des data extrêmement précises. Donc, les tournées aujourd'hui, en tout cas, les grosses tournées un petit peu conséquentes, avec des gros tourneurs qui bossent comme ça, ils vont dire, toi, en fait, tu fais des dates, tiens, en fait, t'es bon en Allemagne, tu fais Allemagne, Mexique, Venezuela. Voilà, mais c'est comme ça, parce que c'est ta fanbase, elle est là.
Et
donc
on
tu vas faire une tournée en Allemagne,
ouais,
au Mexique, au Venezuela, tu vas pas tourner en France, vu que t'as zéro fan en France, on va pas te faire tourner en France. Et en fait, on sait précisément, et on sait de la même façon, qui sont les auditeurs. Est-ce que ce sont des garçons, des hommes, est-ce que ce sont des femmes, est-ce que c'est quelle catégorie sociale, on a énormément de données, en fait. Donc, ça influe même les tournées. Ça va influer les tournées dans le sens où aussi les, on sort beaucoup plus de musique aujourd'hui qu'on en sortait avant. Ça, ça crée des problèmes, ça crée des, il y a des effets négatifs, des effets positifs. Il y a des artistes qui sont très contents de sortir beaucoup de musique, d'autres chez qui, sur qui ça, ça a un poids un peu pesant. Et ça, ça a des conséquences aussi sur la tournée, parce que plus on sort de musique, plus on va partir en tournée, etc., etc. Le fait que, dans les années 2000, l'économie de la musique s'est effondrée. Du coup, on a misé beaucoup sur le live. En fait, c'est à ce moment-là, dans les années 2000, quand le disque s'est effondré, qu'il n'y avait plus d'argent dans la musique enregistrée, tout le monde s'est tourné vers le live. On s'est dit, c'est pas grave, il nous reste les concerts, on va tout miser sur les concerts. Et c'est là que les prix ont commencé à monter, que les gens ont commencé à investir, que les gros géants, Live Nation, AEG, etc., sont arrivés dans le live, ont commencé à restructurer ça, etc. Et aujourd'hui, on dit aux artistes, le streaming, ça paye pas grand-chose, mais c'est de l'exposition. C'est une vitrine, il vous reste le live. Sauf qu'on a vu avec, avec le Covid que bah, quand il n'y a plus de live, il n'y a plus d'argent non plus avec le streaming, en tout cas pour certains artistes. Donc, voilà, tout fonctionne ensemble.
Tu soulèves un truc intéressant, c'est que j'ai déjà entendu ce questionnement, ce débat, autour de la vraie nature du streaming. Est-ce que c'est réellement un moyen de gagner sa vie en tant qu'artiste, ou est-ce que, comme tu le dis, c'est une forme de vitrine qui doit être une fait, un appel à développer autour d'autres offres, peut-être en dehors des plateformes d'ailleurs. Est-ce que tu penses effectivement qu'on peut le voir comme ça aussi, se dire, après tout, les plateformes ne sont pas là pour faire vivre les artistes, mais seulement pour les exposer ?
Alors, les artistes devraient réussir à faire vivre des artistes qui le méritent en termes, de, en termes d'audience. On peut en parler, après il y a une problématique sur ça. Les plateformes de streaming sont un élément d'un écosystème. C'est pas le seul et unique élément. C'est-à-dire que un artiste aujourd'hui ne peut pas, en tout cas difficilement, il faut être assez gros, vivre uniquement du streaming, et d'ailleurs ne va jamais vraiment chercher ça. Il va avoir une vie sur les plateformes, une vie même sur YouTube, qui est une autre, un autre type de plateforme que les plateformes purement audio. Il va avoir une vie en live, il va avoir une vie éventuellement en disque physique, il va avoir une vie en musique à l'image. Il va, pourquoi pas, faire de la synchro avec ses chansons, c'est-à-dire aller placer des chansons dans voilà des à la télévision,
cinéma,
des publicités, des séries, des films, mais même des vidéos sur YouTube qui ont des vues, ça fait de l'argent, etc. Donc, en fait, c'est un écosystème et tout se nourrit. Il n'y a pas de... Tout est poreux. Quand on fait des vues, enfin quand on fait quelque chose sur TikTok, quand on a une viralité sur TikTok, ça se répercute sur les écoutes, sur les plateformes de streaming, en fait, etc. Et donc, et de la même façon, il y a une sorte de corrélation entre les écoutes sur les plateformes de streaming et le remplissage des salles de concert. J'en parlais avec le live, okay. Il y a une vraie corrélation. En fait, on voit que les écoutes créent
de la demande
et ouais. Des gens qui vont se déplacer physiquement. Donc, tout est complètement lié. C'est pas l'un ou l'autre, l'un sans l'autre, c'est pas étanche. Et surtout, l'erreur, et c'est l'erreur que fait une partie du monde de la musique, c'est de penser que, justement, c'est des mondes étanches et qu'on peut se passer de l'un ou de l'autre. En fait, non, il faut tout bosser, ce qui est épuisant, ce qui est exigeant, mais il faut tout bosser aujourd'hui. Et les plateformes de streaming sont un élément parmi d'autres qui peut rapporter beaucoup d'argent et qui peut en rapporter pas assez, voire pas du tout.
Quelques chiffres, peut-être, pour...
Deux
chiffres ?
Non, deux est un chiffre.
Pour commencer,
j'embraye.
Non, mais c'est pas mal. Non, en tout cas, j'avais trouvé des chiffres sur 2021, sur l'ensemble de sur la planète, dans le monde. Le streaming, c'est à peu près 65% des revenus. On a 19% pour le physique et 4% à peu près pour les téléchargements. Ça, c'est le côté...
Les irréductibles.
Il y en a quoi qui arrivent. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est l'argent qui est généré dans l'industrie. Ouais. Si on s'intéresse cette fois aux usages des gens dans le monde... Alors, évidemment, ça change suivant les territoires, etc. Hein, mais là, c'est une moyenne, on va dire. En 2020, on était sur 54% de gens qui écoutent à travers du streaming de la musique. Et donc, c'est pas négligeable, quasi la moitié, un peu moins de la moitié, mais en vidéo. C'est-à-dire que YouTube, par exemple...
C'est énorme.
J'avais sorti un format, d'ailleurs, là-dessus, où en fait, on parle souvent de Spotify, etc., mais en acteur vraiment principal,
première
YouTube
plateforme de streaming,
est certainement
c'est
le plus
YouTube.
Gros. C'est le pas plus gros vecteur de musique
c'est
dans le monde.
Plus gros acteur de la musique au monde. YouTube. Mais
pas,
c'est pas le plus rémunérateur. C'est un peu d'ailleurs un sujet de débat enflammé dans le monde de la musique. C'est-à-dire que YouTube capte énormément d'écoute, énormément de vues, d'écoute, etc. C'est la première plateforme d'écoute de musique. Mais en termes de revenus, c'est loin d'être
c'est
la première. Voilà. Mais le modèle économique de YouTube est différent. Et la réponse de YouTube qui est toujours intéressante, c'est de dire oui, mais nous, en fait, on parle à, on vous permet de parler à des gens qui ne viendraient pas sur les plateformes de streaming, qui ne vont pas aller s'abonner. Mmh. Et effectivement, l'une des préoccupations, l'un des problématiques du monde de la musique, c'est est-ce qu'on va abonner tout le monde ? Est-ce que tous les publics sont des publics de l'abonnement ? Est-ce que tout le monde va lâcher 9 euros par mois pour aller écouter de la musique ? En fait, il y a tout un public qui est plus loin que ça, de la musique, mmh. chez qui c'est moyennement important, qui est un public peut-être un public de la radio, un public de... Voilà, la musique, ça fait partie du monde, mais je ne vais pas investir du temps et de l'argent dessus.
D'ailleurs, on le voit bien quand on regarde un peu les chiffres, à propos de... On voit que c'est essentiel pour les plateformes, la transformation des comptes gratuits en comptes abonnés. C'est vraiment, c'est le nerf de la guerre, après, j'ai envie de dire, pour ces plateformes. En tout cas, ça l'a été pendant longtemps. On peut prendre l'exemple de Deezer, etc., qui avait le contrat avec Orange, qui leur permettait de s'installer, etc. Et tout le jeu, ensuite, c'était de proposer un truc gratuit, mais que ça devienne de l'abonnement, parce que ça, c'est beaucoup plus rémunérateur, évidemment, y compris pour les artistes, d'ailleurs.
Évidemment.
Mais pour terminer sur les chiffres, c'était donc 54% du temps d'écoute de musique dans le monde se fait à travers le streaming, 16% radio, 9% physique et téléchargement. Donc on voit bien que là, il y a un déséquilibre total et qu'effectivement, le streaming a pris le dessus. Pour autant, et là, j'aimerais bien te poser la question, Michel, toi qui sors régulièrement des projets musicaux, là, tu bosses sur un projet musical assez ambitieux en ce moment.
Je ne te le fais pas dire, mon coquin.
La tape, la Zizika mixtape.
Oh là là.
C'est cité.
Voilà.
ZZCC. Comment est-ce que vous prenez un peu en compte ça? Est-ce que vous dites comment on écoute de la musique aujourd'hui?
On prend tout en compte. Hein.
Par quoi tu dois passer?
Nous sommes de grands
calculateurs. Mais c'est quoi votre truc? Tu vois, votre base, c'est de dire où on doit être présent, etc. Est-ce qu'on doit prendre, comme le disait Sofian, tout en compte? Toutes les plateformes sont nécessaires, tous les différents formats, etc.
On se pose. En fait, le truc, c'est qu'on fait ça de manière assez naturelle parce qu'on gravite dans ce milieu-là depuis longtemps, tu vois. Donc, oui, on fait, j'ai l'impression, tout ce qu'il faut. Ouais. C'est juste, là, ici, on se pose encore la question des lives, parce que ben, c'est un projet avec beaucoup de guests, machin, donc c'est un truc qui est compliqué à mettre en place. Mais sinon, sur tout le reste, bien sûr qu'on est... Je pense qu'il y a plus de gens qui me connaissent via YouTube que via ma musique, par exemple, ouais. tu vois. Et pour certaines personnes, je suis un YouTuber qui fait de la musique, et pour d'autres, je suis un compositeur qui fait des vidéos YouTube.
Ce qui est un excellent exemple de la porosité dont tu parlais.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que si quelqu'un a bien conscience de ce truc-là, ben, c'est typiquement moi, Pendresse, Renard, etc., dans... Le pied qu'on a dans l'industrie musicale, mais que les regards sont attirés en ce moment par la mixtape vers ce truc-là, nous, on a ce profil, on a bien conscience que, bah oui, faut tout faire. Faut balancer, faut communiquer sur tous les réseaux. Le dernier, où là, moi, je suis en mode, vas-y, je suis TikTok et tout, j'ai envie, tu vois. Genre, en plus, j'en consomme de plus en plus, je suis devenu accro à cette merde et tout, mais... je sens qu'il faut que j'aille dessus, il y a un truc machin, et c'est le dernier où je suis pas encore, sinon je suis partout, je fais tous les trucs, on balance des clips, on balance des vidéos, on documente ce qu'on fait, machin, tu vois, on est dans ce truc où il n'y a pas de plan, mais on sait qu'on doit faire ça.
Mais tu sais, j'ai l'impression, tu dis qu'il n'y a pas de plan parce que beaucoup d'artistes, mine de rien, aujourd'hui, en tout cas, qui ont émergé ces dernières années, ont conscience, en fait, de tout ça. Ils l'ont complètement intégré.
Ils ne se posent pas de questions.
Oui, c'est ça,
c'est ce que disait Michel, en fait. Ils ne se posent pas de questions. Parce que c'est naturel, parce que c'est leur façon d'être en tant que personne, déjà. Ouais. Angèle, elle ne se force pas pour aller faire des trucs sur Instagram, ou, enfin, elle a grandi avec, c'est sa nature, il n'y a pas de... un artiste ou un label... qui a traversé les années 90 ou 2000, c'est une des problématiques aujourd'hui pour des labels indépendants ou des artistes qui ont vécu des années 90, des années 2000 et qui se retrouvent aujourd'hui, en fait, ils sont perdus parce que c'est pas leur nature d'aller raconter des choses, même sur Facebook, mais d'aller raconter des choses sur Instagram, d'aller sur TikTok encore moins, de publier beaucoup de musique, même d'aller sur Deezer, Spotify, s'occuper de leur profil. C'est-à-dire avoir une bonne photo, être un artiste vérifié, avoir des playlists, par exemple, le truc à la con, d'avoir ce que j'écoute en ce moment, les influences de tel album, mes chansons préférées, enfin vraiment des trucs qui tiennent du partage de la musique, qui sont extrêmement naturels pour plein d'artistes. Pour des artistes des années 90-2000, en fait, ils s'en foutent. Pour eux, c'est même presque se pervertir. Enfin, parce que ils sont peut-être aussi encore dans ce truc de l'underground contre le mainstream, le truc, les plateformes qui nous mangent et tout. Effectivement, c'est vrai. En fait, c'est du travail gratuit pour Spotify ou Deezer ou les autres. Mais sans ça, en fait, il se passe rien. Et aujourd'hui, l'une des problématiques du streaming pour beaucoup de gens, c'est en fait être présent sur les plateformes, c'est facile. C'est, ça coûte pas grand-chose, suffit d'aller sur un distributeur, un agrégateur, pour quelques euros, on est distribué partout. Mais c'est pas parce qu'on est disponible qu'on est trouvable. Et en fait, le gros du travail, c'est d'être trouvable. Et ça se fait sur les plateformes, mais ça se fait aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, pour plein d'artistes, c'est pas naturel. Et j'allais dire, c'est pas que la génération précédente. Non. Il y a aussi des jeunes pour qui c'est pas naturel. Et c'est aussi pour ça qu'il y a... Sauf que eux, ils vont peut-être avoir plus conscience de ça. Et ils vont aller voir des boîtes et des agences dont c'est le boulot, qui vont faire ça pour eux, et très bien, et c'est cool. Mais il y a des artistes plus anciens qui vont un peu être en retrait, et c'est eux qui vont dire « Mais regardez, le streaming, c'est pourri, moi j'ai rien, je fais 3 streams et demi. » Mais en fait, le boulot n'est pas forcément fait, enfin, la courroie n'est pas forcément enclenchée pour qu'il se passe un truc, et c'est frustrant.
C'est un truc dont on avait parlé dans le premier épisode de ce podcast, c'est que c'est vrai que d'une certaine manière, tu es presque obligé de jouer le jeu aujourd'hui, et pour autant, on doit reconnaître que ça crée une forme d'inégalité. C'est-à-dire que on demande, en fait, d'ailleurs c'est intéressant sur ce que ça dit de notre société peut-être, c'est l'artiste aujourd'hui est presque un entrepreneur. Il y a une nécessité d'avoir une vision globale, de maîtriser plein d'aspects différents.
Il est un entrepreneur.
Et plus seulement être un artiste, entre guillemets.
Il est un entrepreneur. C'est bien ou pas bien, j'ai pas de vision, enfin j'ai pas de... C'est comme ça. C'est comme ça, ça rend des artistes malheureux, ça rend des artistes heureux. Il y a des gens qui aiment bien justement le côté stratégie de sortie de trucs. Un mec comme Aurel San, il adore ça. Il adore fabriquer des stratégies de sortie, etc. Il fait ça brillamment. Il est pas tout seul, mais il fait ça brillamment. Il y a des gens qui détestent ça, ça les saoule en fait. Eux, ils veulent pas. Ils veulent faire leur musique dans leur coin, être enfermés dans leur studio. Et puis la musique, elle sort et c'est plus leur affaire. Parce que voilà, c'est comme ça. Donc oui, c'est aujourd'hui, les artistes sont par nature, et le streaming fait de tous les artistes des entrepreneurs, pour le meilleur et pour le pire.
On a déjà une bonne base là. Et si on rentrait dans les détails, peut-être notamment des différents acteurs de l'écoute de musique sur Internet. Encore une fois, pas que du streaming, parce que il y a l'exemple assez parlant de Bandcamp qui, bon, alors là, il y a eu un changement récent, donc on verra ce que ça va donner réellement. On y reviendra rapidement. Mais est-ce qu'on peut dégager déjà des types d'acteurs? C'est-à-dire qu'il y a les acteurs purs du streaming, des plateformes. C'est-à-dire qu'on pourrait citer évidemment Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music.
YouTube.
Musique,
qui monte fort.
Et même si on s'arrête uniquement sur ce type d'acteurs, c'est pas les mêmes modèles économiques en réalité. Ils ne cherchent pas à vendre la même chose, d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ça?
Oui, oui, c'est la grande différence. On va avoir deux grandes typologies de plateformes, sur les plateformes purement audio, quoi, les plateformes qui ne font que ça. Spotify, Deezer, Qobuz, Tidal, pour citer des plus petits acteurs, sont des plateformes de l'audio. Ce sont les plateformes qui, leur business, c'est de vendre des abonnements. Et alors, leur business, c'est pas vraiment la musique, c'est plutôt l'accès à la musique. C'est ça qu'ils vendent, en fait. C'est les playlists, c'est la recommandation, c'est l'ergonomie, c'est la culture, etc.
Ils sont nés comme ça, c'était le but initial.
Spotify, au début, pensait pas tellement être une plateforme de musique, voulait être une plateforme un peu multimédia, multi-art, sauf que personne n'était prêt, sauf la musique, à la fin des années 2000, donc ils ont foncé sur la musique, mais d'ailleurs, c'est une des problématiques fondamentales de ces plateformes, et chez Deezer et tout aussi, c'est que ce sont des plateformes qui sont des plateformes de développeurs, en fait. C'est des plateformes qui sont nées de la technique et pas de la musique. Et ça crée des points de crispation et des points de friction avec le monde de la musique, et ça explique aussi des choses dans des fois des incompréhensions ou des énervements, ou quand Daniel Ek dit des choses stupides vis-à-vis du monde de la musique, parce que...
C'est le CEO de Spotify ?
Exactement. Ouais. Il vient pas de là, il a des écoutes de musique de Monsieur Tout-le-Monde, il vient pas du monde de la musique. Et fondamentalement, ce sont les plateformes qui ont dû, et qui sont encore en train d'apprendre ce que c'est que la musique en tant qu'art, en tant qu'histoire, en tant que partie de la société, mais aussi en tant que secteur économique.
Et peut-être que c'est pas un produit comme un autre non plus.
Et c'est clairement pas un produit comme un autre, mais comme n'importe quel produit artistique, c'est de l'art et de l'économie en même temps, donc il y a des points où ça s'engueule au milieu. Et donc on a ces plateformes-là qui essayent de vendre des abonnements. Et après, on va avoir Apple Music, Amazon Music, YouTube Music, etc. C'est le principal. Eux, leur métier, c'est Amazon vend Amazon Prime, vend des abonnements à Amazon Prime pour que vous achetiez des couches pour votre gamin sur abonnement que vous allez être livré toutes les semaines. Apple, ils vendent des téléphones et des oreillettes. YouTube, ils vendent vos données. Ils vendent vous-même, ils vous vendent à des agences publicitaires, et en fait, donc, ils vous vendent au mot-clé. Et pour eux, la musique, c'est un produit d'appel.
C'est ça, c'est un outil. Donc, si on te comprend bien, c'est qu'on a d'un côté, tu parlais d'une typologie Spotify, Deezer, Tidal, etc., où eux, leur cœur de métier à la base, c'est l'accès à la musique, et d'autres, en fait, qui sont ajoutés à ça, mais leur cœur de métier, c'est pas de vendre de l'accès à la musique, c'est juste un produit d'appel pour exactement. Ensuite vendre d'autres choses.
Et la musique est un produit d'appel toujours très puissant. Ouais. La musique a été le produit d'appel de l'Internet au tout début des années 2000 avec le MP3, etc. On a vendu les premières offres, les premiers abonnements Internet. En fait, on les vendait sur la musique. Alors, la musique pirate, à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas d'offre légale. Mais c'était assez dingue de voir France Télécom en France faire ses pubs en 4x3 dans Paris, télécharger tout ce que vous voulez. Et là, parce que la musique a toujours été un produit d'appel... extrêmement puissant parce que la musique, ça concerne tout le monde en écoute, tout le monde aime au moins un artiste ou deux, tout le monde aime avoir, tout le monde aime danser, tout le monde aime, voilà, on trouve toujours un truc à faire pour la musique ou faire du yoga ou je ne sais quoi. Donc la musique, c'est un produit d'appel puissant, c'est un produit d'appel auprès des jeunes, c'est un produit d'appel auprès des plus anciens, enfin, voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec la musique. Et donc, c'est la grande question des 5-10 ans, des prochaines années du streaming, c'est qu'est-ce qui va se passer entre ces acteurs pour qui la musique, c'est un produit parmi d'autres, comme le cinéma, les séries, etc. Amazon, ils ont aussi Amazon Prime Vidéo. YouTube, ils font aussi des séries, du cinéma, du truc. Apple, pareil, Apple TV, je crois que ça s'appelle. Je suis plus au point sur tout ça. Comment vont naviguer, manœuvrer Spotify ou Deezer dans ce monde-là en étant des petites coques de noix.
Parce que qu'est-ce que ça change
face à ces gros acteurs?
Qu'est-ce que ça change? C'est déjà c'est peut-être pas la même puissance financière à la base et ensuite même dans leur approche, tu vois, en tant que plateforme de l'accès à la musique. Est-ce que ça fait que c'est une approche différente dans l'ergonomie, j'en sais rien, dans ce qu'ils souhaitent faire, dans leur capacité à investir dans du catalogue, dans plein. Est-ce que ça change des choses fondamentalement du côté de l'utilisateur?
Alors, dans l'ergonomie, oui, les plateformes purement audio sont meilleures. En termes, il suffit de regarder l'ergonomie de Deezer et Spotify. C'est bien meilleur que l'ergonomie même d'Apple Music, d'Amazon, de YouTube. Alors, certes, c'est des acteurs plus récents. Mais bon, Apple, ils ont quand même de quoi se payer des ergonomes, je pense.
Et ils savent faire, en théorie.
Ils savent faire, mais Apple Music, ça commence à être bien. Ça commence à être bien, mais c'est pas encore ça. Ça change. Pour l'utilisateur, ça change pas énormément de choses. Si ce n'est que, par exemple, Amazon peut se permettre d'offrir la HD à tout le monde. Spotify essaie de bouger sur la haute qualité musicale depuis des années. Ils ont toujours pas trouvé. Techniquement, c'est pas un problème. Ils peuvent le faire, ils peuvent livrer tous les grands pays comme ça, on peut streamer dans la rue en HD, c'est pas un problème technique. C'est un problème commercial. Comment on présente ça? Et Spotify, ils sont plus dans une optique d'augmenter leurs prix que de les baisser. Donc, comment on va vendre de la HD? Voilà. Alors que Amazon, ils s'en moquent. De toute façon, ils sont pas là pour faire de l'argent avec la musique. Ils sont là pour faire de l'argent avec Prime. Ils sont là pour enfermer des utilisateurs dans leur écosystème, avec Prime Vidéo, avec Prime Music, avec Alexa, avec... voilà, c'est un écosystème à Amazon, et la musique est un élément de cet écosystème, mais il est secondaire ou tertiaire, voilà, comme chez Google. YouTube n'était pas fait pour être une plateforme de musique à l'origine. C'est juste que la musique est arrivée très naturellement sur YouTube et que Google est de fait devenu un énorme acteur de la musique et s'y est mis. D'ailleurs, ils ont eu du mal à trouver une forme de plateforme musicale. Ils ont essayé, souvenez-vous, de Google Play. C'était quand même pas glorieux.
C'était l'enfer, ce truc.
C'était l'enfer. Donc, ils ont mis du temps, d'ailleurs, sous la pression du monde de la musique. Au début, ils n'avaient un peu rien à faire quand même de tout le tout qui fuyait de tous les côtés, et les morceaux qui se retrouvaient sans l'avis de personne sur YouTube, etc. C'était super pour moi, l'auditeur complètement fan, mais pour les artistes, ça pouvait être gênant. Donc, ils n'ont pas du tout le même rapport à l'industrie de la musique, etc. Et moi, je vois en tant que journaliste, par exemple, Spotify, Deezer, ils parlent. Ils ont des interlocuteurs Des fois, ils répondent pas. Alors, ils répondent pas aux questions que je leur pose. Mais en tout cas, j'arrive à avoir des interlocuteurs et ils ont des personnes pour répondre. Ils discutent. Ils font partie de l'écosystème de la musique en France, typiquement. Apple et Amazon, c'est presque des boîtes noires en fait. Ils ont des salariés en France, mais ils ne parlent pas.
Il y a un point intéressant. Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Vous utilisez des plateformes de streaming? Comment vous écoutez de la musique?
Spotify en balle.
Spotify.
Ouais.
Ouais.
Alors moi, j'utilise majoritairement Spotify aussi, okay. Mais j'utilise aussi pour le boulot, quoi. J'utilise Deezer, j'utilise Cobuz, j'utilise Tidal, j'utilise Apple, pas beaucoup. J'utilise un peu Amazon, mais plus pour voir un petit peu comment ça évolue et comment on s'en sert. J'utilise Bandcamp beaucoup. J'utilise YouTube énormément. J'utilise du physique. J'utilise la radio. J'ai une écoute très large.
Il faut qu'on parle après de Bandcamp. Je sais pas, tu t'es déjà penché sur Bandcamp, toi, un peu?
Non, je connais de nom.
Ouais.
Je vois plus ou moins le principe.
Parce que c'est vraiment un modèle différent et qui est intéressant, et notamment qui a été considéré, qu'il reste actuellement comme plus vertueux, entre guillemets, notamment vis-à-vis des artistes. Mais juste avant ça, ce que je trouve intéressant, c'est dans les différentes typologies dont tu as parlé, on voit aussi qu'il y a donc ces boîtes type Apple, Amazon, etc., qui vendent des services en parallèle, et c'est un produit d'appel, la musique. Mais on voit aussi que ça inspire, mine de rien, les Spotify, Deezer et compagnie. Je prends l'exemple de Spotify, qui a lancé aux États-Unis CarSing, par exemple, qui est en fait un produit hardware. Vraiment, enfin, c'est un truc physique que tu fous dans ta bagnole pour avoir un accès à Spotify, en gros, pour mettre de la musique. Donc, en gros, l'idée, c'est de... Ils ont bien conscience qu'avec leur modèle actuel, ça ne suffit pas et qu'il faut s'élargir. J'imagine déjà, parce que ça rapporte peut-être plus d'argent, j'en sais rien, mais que globalement, il faut être plus présent dans la vie des gens. Et ça passe aussi par soit d'autres services, soit même par du hardware.
Bien sûr, ils sont obligés. Sinon, ils vont se faire manger. En fait.
Regardons l'exemple aussi, après je te laisserai réagir à tout ça. L'exemple du dernier Kanye West. Il me semble qu'il a appelé ça Donda 2.
Donda 2, ouais.
Pour avoir accès à Donda 2, il faut acheter un appareil, le stem,
ouais,
dans lequel il y a le morceau. Alors après, il y a un petit truc que tu peux mixer dessus, etc. Mais bon, ça démontre en tout cas l'ambition, que ce soit des artistes ou de certaines plateformes, de certains acteurs, d'aller au-delà de seulement la plateforme classique. Pourquoi? C'est une nécessité économique? C'est un autre...
Bien sûr. Spotify, qui est quand même le leader du marché de la musique par abonnement et tout, c'est intéressant à regarder. C'est l'entreprise qui tire tout, même en termes d'usage et tout. C'est l'entreprise qui invente les usages. Et ils savent bien qu'ils vont se faire manger, en fait. Amazon monte en flèche, YouTube monte en flèche, Apple, ils sont arrivés, blam, ils avaient 30 millions d'utilisateurs parce que tout est embarqué sur les téléphones, donc mécaniquement, forcément, ça aide un peu. Spotify, il faut aller télécharger quand même l'application, c'est autre chose. Typiquement, le CarSing, c'est... la voiture, aux États-Unis, évidemment, en Amérique du Nord, mais dans plein de pays, et en France aussi, en Europe, la voiture, c'est le lieu de l'écoute de la musique par excellence, parce que on peut pas faire autre chose. En fait, on peut conduire, et on peut écouter la radio, écouter de la musique. Et donc Spotify, qui veut être un acteur de l'audio, d'ailleurs, on peut en parler, ils ont pivoté. Spotify n'est aujourd'hui plus une plateforme de musique, mais une plateforme de l'audio. Ils misent tout sur le podcast et la musique est en train de devenir secondaire pour eux. Et en fait, ils veulent être le one-stop de l'audio. C'est-à-dire, si j'ai envie d'écouter quelque chose, eh ben, c'est Spotify. C'est ça leur truc. Et parce qu'ils veulent essayer de ne pas se faire manger par d'autres acteurs. Alors, ce qui les sauve, c'est que Amazon et Google, etc., ils n'ont toujours pas vraiment compris comment fonctionnait le monde de la musique, la recommandation, comment on écoute la musique, parce que je pense qu'ils ne se sont pas tellement intéressés à quel est le rôle de la musique dans la vie des gens, tout simplement. C'est encore un peu secondaire pour eux, en tout cas dans leur ergonomie, etc., par exemple. Spotify, c'est au cœur de leur réflexion, par exemple. Mais Spotify, forcément, ils sont obligés de tirer un peu dans tous les sens pour essayer. Ils ont essayé de lancer un assistant vocal aussi. Ils n'ont pas vraiment réussi, mais ils ont travaillé là-dessus. Ils tirent un peu dans tous les sens pour occuper le terrain et pour être le lieu par défaut où on vient écouter de la musique.
Donc là, on a fait un bon point sur les plateformes. Vraiment, c'est vraiment dans le streaming en tant que tel. Il y a d'autres façons aussi d'écouter de la musique, de mettre en avant même de la musique. Alors, je pense évidemment à TikTok. Il faudra donc, comme je disais, qu'on parle de Bandcamp. TikTok, moi, j'y suis allé quelques fois, j'ai fait un format dessus, etc. J'essaye de m'intéresser à voir. On voit que c'est un impact monstrueux sur l'industrie musicale aujourd'hui. Peut-être toi qui aimes bien cette plateforme, qui t'es penché dessus, dans quelle mesure c'est un, tu vois, dire TikTok, musique, ça fait sens, et pourquoi ça permet de mettre en avant de la musique TikTok?
Après, là, j'arrive hein, seulement sur TikTok, c'est-à-dire ouais. Là, j'utilise quotidiennement depuis, je sais pas, 3-4 mois, un truc comme ça. Ce que je vois, c'est... Bon, déjà, moi, j'ai mon feed à moi, tu vois, donc j'ai juste une expérience utilisateur, j'ai pas fait de travail de recherche dessus, etc. Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes amateurs ou pseudo-amateurs, ou en tout cas avec une esthétique un peu amateur, tu vois, qui sont là, qui présentent leurs projets, machin, et qui utilisent une fonction qui était là au début sur YouTube, où tu peux répondre en vidéo. Tu vois, ce truc de duo. Il y a beaucoup de trucs où tu as des gens qui sont là, ils te posent une ligne harmonique et ils te font chanter, tu vois, le dernier truc à la mode, mais en même temps, tu vois, t'as l'harmonie, ils t'accompagnent sur un truc, etc. Il y a ce côté un peu collaboratif et fait pour être viral aussi, tu vois, dans ce truc-là. Puis t'as tout le truc des danses, t'as tout le truc de la mémabilité d'un morceau, c'est-à-dire qu'un morceau très intense, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire le TikTok où tu chiales, il faut que ta musique elle chiale sa race, tu vois, donc je pense que ça influe pas mal de trucs. On a une portion de la musique qui esthétiquement devient un peu plus caricaturale, tu vois, genre c'est, je sais plus qui m'a dit qui pensait qu'il allait vraiment avoir une grosse scission entre la musique de mème et la musique la vraie musique sérieuse où on peut se branler, tu vois.
Et, tu parles de musique de mème, tu veux dire une musique pensée pour Internet et pour être utilisée sur Internet.
Ouais, en fait. Pensée pour la viralité, tu vois. Et où ça devient vraiment, même pour les artistes, un outil de communication plus qu'une œuvre.
Et en même temps, scission ou inversement, fusion, dans le sens où on sait que dans la façon de composer de la musique aujourd'hui, que ce soit à quel moment tu places ton hook, quand le refrain arrive, etc., on sait aussi qu'il y a cette volonté d'être le plus accrocheur possible, le plus vite possible, etc. Ouais. Et de surfer sur cette possible viralité quand même aussi.
Bah ouais, mais je sais pas si t'as vu ça, mais les deux gamins qui ont fait Oui ou Ah,
ouais.
Tu vois ce truc-là, ouais. Ils ont repris...
T'as suivi ça, Sofian?
Ouais, ouais, de
l'autre qui fait Oui ou Ah, Ah. Et ils ont fait un horrible morceau.
Mais un buzz hallucinant.
Oui, bien sûr. Non, en plus, j'ai adoré ce...
C'est vrai?
Bah oui, bien sûr. J'ai dansé toute la night là-dessus. Et ils sont passés, je sais plus où. Ils ont fait une tournée d'interview, machin. Et ils disaient clairement, nous, on veut faire de la fast food music. Les gens leur demandent la version longue de ce morceau-là. Et ils disaient, bah non, nous, c'est une minute. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est balancer 100 morceaux d'une minute plutôt qu'un morceau de 3-4 minutes.
Intéressant.
Et je pense que eux se disent, que ce soit, c'est genre, ils ont, je sais pas, 17 ans, un truc comme ça. Et que eux, ils soient dans cette démarche-là hyper naturellement. Pour moi, ça annonce quelque chose aussi, tu vois.
Il faudra qu'on revienne là-dessus aussi, sur comment ça impacte les artistes. Ça sera peut-être dans une deuxième partie du podcast. Mais en tout cas, on a bien compris que TikTok a une place particulière à travers notamment effectivement les danses, les challenges, etc. Où en fait, le principe, c'est que sur un morceau, plein de gens vont l'illustrer d'une manière différente en faisant des vidéos. Et donc, en fait, ça fait monter un morceau qu'on écoute énormément. Le meilleur exemple, c'était évidemment avec le skater là sur le...
Tony Hawk, enfin, je connais.
Non, c'est pas ça. C'était quoi ce morceau déjà?
Fleetwood Mac.
Fleetwood Mac, absolument. De Dreams, c'est ça. Et donc, on voit comment ça s'est répercuté, comme tu le disais tout à l'heure, directement dans les streams, en parallèle, etc.
Même sur les ventes physiques.
Sur les ventes physiques.
Fleetwood Mac est remonté dans les tops.
C'était du bac catalogue de base.
L'année dernière, c'était du bac catalogue qui était surtout adressé à des papas-mamans, quoi. Mmh. Voire même à des vieux papas-mamans. Mmh. Et parce que c'était même plus la génération de mes parents, limite, presque. Et en fait, on a vu Fleetwood Mac dans les ventes physiques remonter dans le top 5 l'année dernière, ou dans le top 10, je sais plus, dans plein de pays. Et en fait,
ça vient de TikTok.
Et ça vient de TikTok, ça vient de ce truc. Après, le label a surfé habilement. Ils ont travaillé sur les plateformes, ils ont tout ressorti.
Les musiciens eux-mêmes de Fleetwood Mac faisaient des réponses dont tu parlais, tu sais.
Exactement. Ouais. Ils ont complètement utilisé tout ça, mais c'est bénéfique. Parce que ce qui est intéressant sur TikTok, c'est que il y a tout, en fait tout est possible. Il y a des gens qui vont créer des morceaux spécifiquement pour ça. C'est un peu genre des morceaux comme la danse des canards comme on connaissait avant. Enfin c'est un peu ça. En fait c'est un peu la danse des canards. C'est-à-dire que c'est des morceaux qui sont faits pour amuser, pour être efficace instantanément et pour être bébête en fait quelque part. Et c'est assumé. Et c'est il y a pas de, enfin la danse des canards a jamais prétendu être une œuvre brillante, mais c'est une œuvre qui a son utilité, c'est une œuvre fonctionnelle en fait. Et sur TikTok on a ça.
Crée du lien aussi.
Exactement, c'est cool. Et on va avoir des morceaux Alors, tous les jeunes artistes, tous les nouveaux artistes essayent de placer un TikTok, etc., de faire des défis, des machins, des bidules. Ça marche plus ou moins bien parce que ça se voit un peu, que c'est un peu forcé, et les forceurs, ça marche pas trop. Et ce qui est génial, moi, je trouve, c'est les morceaux qui sortent de nulle part, qui sont ressortis par des TikTokers qui ont 12 ans et demi et qui vont péter un câble sur un segment. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire avec The Caretaker. The Caretaker, c'est un musicien qui a sorti une collection de disques, je pense qu'en tout il y en a au moins pour 30 heures de musique, et c'est une musique c'est comme des, comme si on écoutait de la musique de bal des années 30 avec les crépitements d'un 78 tours, mais au ralenti, de loin, fantomatique. Okay. C'est extrêmement beau, mais c'est très troublant, et c'est pas du tout une musique pas du tout TikTok, hein. Mm-hmm. On n'est pas du tout, et en fait c'est devenu The Caretaker Challenge, où en fait ils se filmaient en train d'écouter ce truc-là pendant des heures, et en fait ils étaient dans des états complètement, alors probablement avec un peu de produit. Mais et c'est devenu un tube de TikTok. On a eu comme ça Kit Francescoli, qui est un musicien de Marseille, qui a une carrière de musicien électronique très noble et pas très TikTok depuis longtemps, depuis plus de 10 ans. Et il y a quelques temps, il a eu un petit segment qui dure 4 secondes d'un morceau, d'un vieux morceau qui dure 6 minutes. Il y a une TikTokeuse qui a chopé ce morceau et qui en a fait un truc viral, et c'est devenu un truc de dingue, et il a fait des millions d'écoutes sur Spotify avec ça. Et donc, c'est génial de voir... En fait, c'est la musique qui circule. Ce qui est intéressant, toujours, et ça, c'est vraiment le cœur de moi, de mon boulot, et de ce qu'il ne faut pas oublier dans la musique, c'est qu'il faut qu'elle circule. En fait, si la musique ne circule pas, ça va créer des problèmes, parce qu'elle va trouver un chemin pour circuler, en fin de compte. Et TikTok, c'est génial, c'est un outil qui est fait pour que la musique circule, et après, chacun fait son petit business à partir de ça, mais en tout cas, la musique circule, et je trouve que c'est un outil qui est d'une puissance assez rare, en fait, hein, pour ça.
Oui, puis même, il y a quelque chose d'un peu beau, je trouve, dans des... Moi, j'ai vu quelques TikTok où, tu sais, t'as des boucs qui faisaient que se bousiller au rap et qui ont 40 piges et qui découvrent des vieux classiques de rock pour la première fois. T'as des types qui disent « Ouais, ce titre-là, que vous entendez en fond, c'est mon grand-père qui l'a fait il y a 50 piges. Il a été refusé par tous les labels et il a sorti, il en a vendu 4. Et son TikTok, il fait 4 millions de vues, tu vois. Ouais. Et tout ce genre de petites histoires...
Ça permet d'avoir une discussion touchant sur la musique, qu'elle soit récente ou ancienne.
Voilà.
Et de triper sur la musique. Et c'est
ça aussi qui est appréciable avec ces nouvelles plateformes émergentes. Bon, ça commence à être installé, TikTok, hein, mais qui, dans un premier temps, on n'a pas encore assez mis la main dessus, les maisons de disques, etc., parce qu'ensuite, elles deviennent des outils promotionnels, évidemment, pour les grands acteurs.
Les maisons de disques, elles ont un peu le mal à mettre la main sur TikTok. C'est un peu insaisissable comme objet. Elles ont du mal, parce que quand elles essayent de faire un truc un peu trop téléphoné, en fait, ça ne marche pas. Par exemple, Sony avait essayé de faire un truc il y a quelques temps avec la famille d'Amelio. Alors, ils ont tiré fort, hein. Ils ont pris les plus gros. Et ils voulaient relancer un peu Michael Jackson parce que les histoires de pédophilie, ça a un petit peu nuit à sa carrière, on va dire.
Mais non.
Et donc, ils avaient essayé de relancer Michael Jackson. Les chansons, quand même, sont mortelles. Et donc, ils avaient fait un truc, un gros partenariat avec la famille d'Amelio, où ça dansait devant le miroir en chantant du Michael Jackson. Ça n'a pas marché. Enfin, à l'échelle du truc, ça n'a pas vraiment marché, en fait. Parce que c'était un truc de forceur. Mm. C'était trop téléphoné, etc. Et quand j'en parle dans les maisons de disques, ils me disent « Ouais, en fait, quand on essaye de lancer quelque chose sur TikTok, des fois, ça prend. Mais souvent, on est plus déçu qu'autre chose. Alors, on le fait quand même parce que ça fait partie du truc, c'est la mode, et tout ça, on le fait quand même. Mais souvent, on est plus surpris d'un truc qui va marcher 3 mois, 4 mois, 6 mois après. Parce que le morceau, je pense que TikTok, l'un des trucs importants, c'est qu'il faut qu'une musique, elle ait une vie et qu'il faut qu'elle rentre dans la vie des gens pour qu'elle ait du sens sur TikTok, en fait. Elle va pas surgir comme ça. Elle rentre dans la vie des gens parce que quelqu'un s'y est attaché, parce que, voilà, il y a ce truc-là. Mais c'est pas en jetant de la musique comme ça aux gens que ça fonctionne vraiment sur TikTok. C'est un peu plus complexe que ça. Et les maisons de disques, aujourd'hui, sont un petit peu... elles ont pas récupéré TikTok comme elles ont récupéré très rapidement Instagram, par exemple, parce que c'est l'image.
Alors, peut-être que ça changera, parce qu'on sait que récemment, TikTok a lancé Sundown, qui est une nouvelle offre qui, en fait, s'apparente, entre guillemets, à la distribution et la mise à disposition, ouais, ça, type Spotify de musique.
C'est assez majeur, ouais, en termes de distribution de musique amateur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la musique amateur aujourd'hui quand on voit que Rosalia enregistre ses disques chez elle, quoi.
Donc c'est fantastique, Rosalia.
Absolument, j'ai écouté ça. D'ailleurs, elle est là. mais TikTok en tant que diffuseur, en tant que distributeur, ça peut être un vrai séisme, en fait, hein, dans le monde de la musique. Je pense qu'on mesure pas encore vraiment l'impact de ce truc-là. Mmh. SoundCloud fait SoundCloud fait un travail énorme.
Allons-y.
Pour la distribution de la musique amateur, disons, de la musique, et TikTok s'aventure sur ce même terrain.
Ouais. Justement, OK, on a parlé des grandes plateformes de streaming avec les différents modèles et différentes typologies qui peuvent exister. La place de TikTok, parce qu'elle est particulière. Est-ce qu'on a quelques autres exemples d'écoute de musique à travers Internet qui sont en dehors des canons dont on a parlé, Bandcamp, SoundCloud, peut-être encore quelques autres. Est-ce qu'on peut rapidement dire quelques mots sur ces plateformes, sur leur impact aussi? SoundCloud, partons là-dessus.
SoundCloud, c'est gigantesque.
C'est gigantesque. Et en plus, un impact culturel fou. Il y a des scènes musicales qui émergent de SoundCloud.
Exactement. Et SoundCloud qui a failli mourir plein de fois, qui a été... C'est intéressant, SoundCloud, parce qu'ils sont devenus... en fait, les maisons de disques, voyant qu'il y avait plein d'œuvres qui circulaient, qui étaient réexploitées, remixées, retravaillées sur SoundCloud et repostées, ou carrément repostées sans retravail, de façon purement pirate, ont un peu tordu le bras à SoundCloud il y a quelques années, en disant il faut passer à la caisse maintenant, et SoundCloud est devenu une plateforme de streaming comme une autre, donc on peut s'abonner à SoundCloud pour écouter Madonna et Céline Dion. Mais personne ne fait ça. Et d'ailleurs, SoundCloud a caché son offre d'abonnement dans un coin. Enfin, vraiment, ils s'en moquent complètement. C'est pas leur business. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que SoundCloud, c'est une plateforme d'expression musicale, une plateforme d'échange, une plateforme où il y a des créations, effectivement, de mini-scènes, cloud rap, etc. Il y a un milliard de mini-scènes et de mouvements qui se créent sur SoundCloud. C'est sur SoundCloud qu'il y a le plus d'œuvres disponibles. De loin, hein, on est à plus de 150 millions d'œuvres disponibles, là où les Deezer, par exemple, Deezer à 90 millions, c'est un des gros catalogues. Spotify plafonne à 70, je crois, mais c'est plus tellement important pour une plateforme de streaming comme Deezer ou Spotify. C'est pas ça l'illimité. Ça fait longtemps qu'on a dépassé cette idée-là d'avoir toute la musique du monde. Mais SoundCloud, c'est devenu le lieu par défaut où les gens vont mettre leur musique pour l'échanger. En fait, c'est le fait que tout soit extrêmement échangeable sur SoundCloud, qui est une grosse force. Et c'est une plateforme qui...
Il y a un truc qu'il y a sur SoundCloud qui est sur aucune autre des plateformes qu'on a citées tout à l'heure, à ma connaissance, c'est les commentaires.
Les commentaires.
C'est aussi bête que ça.
C'est vrai. Mais alors ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que l'aspect communautaire, il est testé régulièrement par Spotify. Ils disent, mais ça prend jamais.
Ils l'ont complètement abandonné. Parce que...
S'abonner aux artistes, avoir des news, des machins, etc., pouvoir échanger entre nous...
Parce qu'en fin de compte, la communauté qui est sur SoundCloud ou sur Bandcamp aussi, parce que sur Bandcamp, il y a aussi des commentaires qui ne sont pas très mis en avant, mais il y en a. Et parce que je pense que ce n'est pas la même communauté, ce n'est pas les mêmes gens. Quand on va sur Bandcamp ou sur SoundCloud, c'est pour la musique. On y va parce qu'on est intéressé par tel artiste. Et en général, quand on tombe sur un artiste Bandcamp ou un artiste SoundCloud, c'est mignon. C'est pas quelqu'un qu'on a entendu dans Taratata, quoi, clairement. C'est toujours une exigence stylistique, une recherche, un underground, plus ou moins underground, mais en tout cas, on n'est pas chez n'importe quel artiste. Donc, les fans, la communauté elle-même est engagée sur la musique. Et quand on voit les commentaires sur SoundCloud, c'est pas des commentaires à la con, c'est des gens qui vont aller sur un segment spécifique.
J'adore le drop à tel endroit.
Génial, le drop, mais ça, ce serait pas le sample de tel truc. Enfin voilà, c'est des gens qui s'interrogent sur la musique, qui en parlent, qui sont contents de l'entendre. C'est pas un commentaire à la con, voilà. Et c'est, alors que sur les tentatives de Spotify ou d'autres à avoir une sorte de sociabilité, etc., en fait, c'est Facebook qui fait ce boulot-là. Donc, pourquoi avoir deux réseaux sociaux qui vont faire la même chose? Parce que les gens qui sont sur les grosses plateformes de streaming, et plus on avance, plus c'est le cas, c'est ma mère et moi. Enfin, c'est tout le monde, en fait. Et donc, moi, je peux envie de discuter avec ma mère sur Spotify. Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas d'appétit pour ça. Parce que c'est pas sur Spotify qu'on va parler de musique. C'est vraiment c'est fou de dire ça. Mais en fait, c'est pas des plateformes de musique. C'est des plateformes d'accès à la musique.
Alors qu'à l'inverse, pour toi, SoundCloud est une plateforme de musique ?
SoundCloud et Bandcamp ont des ADN vraiment musicaux. D'ailleurs, Bandcamp, qui n'est pas une plateforme de streaming en tant que telle.
Même si on peut streamer.
On peut écouter de la musique en streaming sans la télécharger, donc technologiquement, c'est du streaming, peut-être.
C'est pas le cœur du truc, quoi.
Le cœur du business de Bandcamp, c'est d'être un magasin. C'est un magasin de disques. Qui vend des t-shirts, des CD, des vinyles et des téléchargements. Mais c'est un magasin.
Pour rappeler un peu le principe de Bandcamp, en fait, on a des pages dédiées à des groupes, en gros, et à partir de là, on peut accéder en fait aux CD qu'ils proposent, track par track, etc., et les acheter directement.
Et on peut télécharger en plusieurs qualités, plusieurs formats, etc. Donc c'est vraiment un truc pour les fans de musique. Et effectivement, on ne trouve pas sur Bandcamp, on ne trouve pas les catalogues, les catalogues des majors n'y sont pas, par exemple. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse à un certain public. Et idem pour SoundCloud. Et après, on a, pour continuer sur les autres plateformes, on a carrément des plateformes plutôt, plateformes un peu du futur, trucs comme Resonate, comme Audius.
Alors ça, je ne connais pas du tout. Vas-y, parle-nous en.
Resonate, c'est une plateforme, c'est des plateformes qui marchent en blockchain, où on va aller rémunérer les artistes directement. Audius, c'est du NFT, donc on va aller acheter des NFT, rémunérer les artistes directement, mais être du coup propriétaire d'une chanson, d'un bout de chanson ou d'un visuel, etc. C'est d'autres systèmes de rémunération parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes cherchent à aller dans ce qu'on appelle la fan économie, c'est-à-dire vraiment de construire et de tirer un revenu du lien avec la communauté qui s'est créée. Et c'est vrai que les grandes plateformes du type Deezer, Spotify, Apple Music, etc., ne le permettent pas du tout. Elles travaillent dessus, mais elles ne le permettent pas aujourd'hui. Et des plateformes comme Resonate, comme Audius, et Bandcamp aussi, quelque part. Bandcamp, c'est de la fan économie. Permettent de rémunérer l'artiste en direct ou de lui acheter un objet, alors qu'il soit physique, avec un CD ou un vinyle ou un t-shirt sur Bandcamp, ou un NFT, ou une rémunération blockchain sur Resonate. Il y a d'autres plateformes aussi, hein, mais Resonate et Audius, c'est les principales. Moi, il y a une plateforme que j'aime beaucoup qui s'appelle Currents.fm, qui est une... alors là, on s'abonne à soit un artiste, soit un collectif d'artistes. Et toutes les semaines, cet artiste ou ce collectif livre des playlists. Et alors, c'est plutôt de la curation. On est vraiment dans la curation de titres. Ça peut être les leurs. Hein.
Pour expliquer la curation, en gros, c'est le fait qu'il y ait des choix éditoriaux de mise en avant de contenu, pas seulement laisser ça, des playlists ou
des accros. C'est pas un algorithme, c'est des personnes en qui on a confiance. En tout cas, on met notre confiance dans ces personnes et ils vont, tiens, cette semaine, nous, on aime bien ça. Écoutez, et puis si ça vous plaît, c'est cool. Et on paye quelques euros tous les mois pour ça.
Il y avait un truc qui était marquant avec Bandcamp, et ça explique aussi, parce que c'était intéressant comment tu as essayé de diviser un peu les publics en disant les gens qui vont sur SoundCloud et sur Bandcamp, c'est les butées de musique, objectivement, tu vois, c'est ceux vraiment qui sont là-dedans, quoi. Et Bandcamp jouait admirablement avec tout ça, en rappelant aussi qu'ils étaient beaucoup plus bénéfiques pour soutenir les artistes. Il y avait les fameux Bandcamp Friday, il me semble.
Bandcamp Friday, ça existe toujours, ouais.
Où en gros, le principe, c'est de dire, tous les vendredis, quand vous mettez de la thune pour acheter l'album d'un artiste, eh bien, il y a 94% en tout d'enjeu, ou même la totalité, je ne sais plus exactement.
C'est la totalité, ouais.
C'est la totalité qui va directement à l'artiste. Nous, on ne prend même plus notre part.
Ils sont chauds, hein.
Donc, il y a vraiment cette idée, de... Mais c'est un autre rapport à la musique,
Ils ont un ADN beaucoup plus proche du monde de la musique. C'est vraiment des gens qui viennent du monde de la musique et du monde de la musique indépendante, avec cette éthique qu'ils ont conservée, un peu do it yourself, etc. Et un peu, on est là pour la cause. C'est un peu ça, ce que Bandcamp a gardé, c'est ce mot d'ordre qui était le mot d'ordre encore dans les années 90. On est là pour la cause.
Est-ce que c'est
pas forcément là pour se faire beaucoup d'argent, même si Bandcamp, ça marche très bien pour eux, hein, c'est un super modèle économique.
Est-ce que c'est pas aussi ce que Tidal essayait de promettre? J'ai pas tout suivi, mais Tidal, c'est la plateforme de Jay-Z, c'est ça?
Tout à fait.
Et c'est tout ce que je sais. J'ai l'impression que lui avait essayé de faire un truc.
Il y avait, en tout cas, t'as raison, l'argument de plus favorable aux artistes, on travaille plus main dans la main, les pourcentages reversés sont plus importants, etc.
C'est effectivement. Ils reversent un peu mieux, ils ont une bonne qualité sonore. C'est une bonne plateforme, Tidal, d'ailleurs.
Mais qui n'a jamais complètement pris en dehors des États-Unis.
Ça n'a jamais, même aux États-Unis, c'est minime. Les gens se sont abonnés pour écouter l'album de Kanye West ou de Beyoncé, mais puis ils ont oublié qu'ils étaient abonnés. Mais il n'y a pas vraiment ils n'ont pas vraiment décollé. C'est une bonne plateforme. Les outils sont bons, l'ergonomie est bonne, le son est bon. Mais pourquoi une de plus? C'est un peu ça, c'est un peu ça la problématique. Et effectivement, ils reversent un petit peu mieux. Ils reversent un petit peu mieux aux artistes.
Ouais, on le voit bien dans les stats, effectivement.
Mais cette question du reversement aux artistes, elle ne revient pas seulement aux plateformes, malheureusement. C'est pas parce que la plateforme reverse un peu plus que l'artiste va voir plus d'argent à la fin. Le problème, c'est les intermédiaires au milieu.
D'ailleurs, ça, c'est un truc intéressant. C'est Tidal avait tenté à un moment, comme d'autres plateformes, les exclusivités, les sorties en exclusivité. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu veux écouter vraiment cet album. Et j'ai l'impression qu'ils le tentent plus trop, ça, les plateformes. Non, ça n'a pas fonctionné. Voire, ça encourage le piratage, ou en tout cas, d'autres façons de choper le truc, quoi.
Le Kanye West, je crois que c'était Life of Pablo qui était sorti en exclu sur Tidal. Moi, je l'ai téléchargé sur Soulseek, qui est une autre plateforme sur laquelle on peut écouter de la musique, qui est un dinosaure du début des années 2000, qui n'a pas bougé depuis, qui est assez dingue. Mais effectivement, moi, j'ai pas m'abonner à Tidal pour aller écouter ce disque. Et ça se fait plus trop, les exclus, parce que c'est plus le jeu. Les labels, ça les intéresse plus. Ou alors, on sort qu'en physique. Par exemple, pour créer un peu du buzz. Et puis, ça fait de l'argent aussi. Mais aller faire une exclu, aujourd'hui, ça a pas de sens.
Peut-être juste quand même, pour terminer sur cette partie, tu nous disais que le modèle économique de Bandcamp fonctionne très bien. Pour autant, ils viennent d'être achetés. Est-ce que ça marche si bien que ça, le modèle économique? Parce que c'est un mouvement étonnant. Pour rappeler, en gros, c'est Epic Games, donc énorme, pas producteur, mais studio major, de jeux vidéo à la base, qui a des plateformes sur lesquelles on peut télécharger, etc., qui produit ses propres jeux aussi. C'est légendaire Fortnite, si je dis pas de bêtises, Epic Games. Exactement. Et donc, qui ont racheté Bandcamp, avec, on sait pas exactement ce qu'ils veulent en faire, mais il y a eu quand même des communiqués, peut-être ouvrir ça vers du streaming un peu plus classique, justement, c'est ce qui semble ressortir. Peut-être une plateforme multimédia, justement, serait étonnant par rapport à ce qu'imaginait Spotify, tu disais au début, mélange jeux vidéo, musique, en plus ça fait sens, le jeu vidéo et musique depuis quand même pas mal de temps. Bon, on ne sait pas exactement, mais si c'est une boîte qui fonctionnait si bien, pourquoi un rachat? Est-ce que vraiment un SoundCloud, un Bandcamp qui prend complètement à rebours les acteurs classiques, ils peuvent survivre? Il y a cette demande, il y a...
La problématique de Bandcamp, à la différence de SoundCloud, SoundCloud c'est une plateforme de son temps. C'est une plateforme de streaming, c'est une plateforme d'accès direct, viral, les commentaires, c'est une plateforme qui évolue mais qui occupe son espace. Bandcamp occupe un espace d'hier. En fait, Bandcamp occupe un espace, enfin, vendre des vinyles et des CD et des t-shirts et des téléchargements. Il s'agit pas, enfin, voilà, je pense que n'importe qui a fait un tout petit peu d'études voit que ça a des limites. Ça fonctionne aujourd'hui parce que on est encore un peu entre deux eaux, entre deux générations, entre trois générations, que le physique, ça peut encore avoir du sens, etc. Mais sur le long terme, dire que les gens vont continuer à acheter des fichiers pour à télécharger des fichiers, ça va disparaître, c'est clair et net. Les vinyles, les CD, on ne sait pas vraiment combien de temps ça va. Le marché du vinyle est en train de s'effondrer en ce moment pour plein de raisons.
C'est très cher à produire, entre autres.
Oui, parce que il n'y a plus de matière première, ouais. Parce que voilà, c'est compliqué en ce moment. Donc ça fragilise ce modèle typiquement en ce moment. Et donc Bandcamp est pressé d'évoluer depuis un bout de temps. Le problème, et c'est peut-être l'une des clés du rachat par Epic Games, c'est que si Bandcamp veut devenir une plateforme de streaming, ce serait une bonne chose dans le sens où ça pourrait être enfin la plateforme de streaming qui vient du monde de la musique et donc qui ajoute une donnée un peu culturelle, éthique, un point de vue et un état d'esprit dans le monde du streaming.
C'est un peu moins dans l'ADN d'Epic Games, ça, l'éthique, par contre, à ma connaissance.
Oui, exactement, non mais c'est vrai, non mais c'est l'ambiguïté de tout ça, c'est un peu le... On comprend pas tellement tout ça. Mais si Bandcamp veut faire ça, Bandcamp a besoin de beaucoup de sous, parce que l'une des problématiques du streaming, c'est que il faut payer les catalogues. Donc, tous les ans, c'est... en plus, Bandcamp opère sur un peu partout dans le monde, mais si Bandcamp veut ouvrir une plateforme de streaming sur ne serait-ce que l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, les grands marchés, sans aller attaquer les autres marchés, c'est des dizaines, des centaines de millions de dollars qu'il faut lâcher aux titulaires des catalogues, les majors, les grands groupements indés. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent à opérer aussi, parce que c'est la bande passante, c'est un outil qu'il faut, c'est un client, enfin un logiciel, des applications, tout ça. Enfin, faut les maintenir, faut les faire fonctionner et tout. Donc c'est une toute autre économie. Et Bandcamp s'était pas aventuré là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont besoin de l'argent d'Epic Games pour ça. Peut-être que c'est plutôt Epic Games qui va siphonner Bandcamp et boire le sang de Bandcamp jusqu'à la mort, en lui prenant son savoir-faire sur la communauté, son savoir-faire sur les paiements notamment. Bandcamp est très bon sur les paiements, son savoir-faire sur le merchandising, sur l'envoi d'objets physiques, voilà. Sur, mais c'est difficile à lire hein, quand même comme rapprochement.
Je peux pas ne pas imaginer une convergence avec le jeu vidéo. Enfin, sinon, je comprends pas pourquoi un acteur comme celui-là s'intéresse à ça.
Bon, mais voilà, mais c'est vraiment
un Bandcamp du jeu vidéo, c'est chaud.
Mais c'est super intéressant parce qu'il y a un marché de fou autour du jeu vidéo et de la musique.
Et les musiques de jeux vidéo, typiquement, sont un peu à l'abandon sur YouTube et même sur la plateforme de streaming. Mais sur YouTube, typiquement, il y a énormément de musiques de jeux vidéo qui sont mises à disposition par les internautes eux-mêmes et qui sont supprimées par les studios. Donc c'est un peu stupide dans le sens où personne n'en profite à la fin. Et c'est des œuvres qui sont à l'abandon, qui sont en déshérence complète. Et c'est vrai que Bandcamp pourrait les accueillir et ça pourrait être. Il y a une demande forte. Voilà.
Je crois d'ailleurs que c'est déjà le cas. Il y a beaucoup de studios indés de jeux vidéo qui ont sorti qui mettent à disposition leur BO via Bandcamp plutôt que via d'autres canaux.
Exactement, ça arrive parce qu'ils ont plus de contrôle là-dessus. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est des. Il faudra voir. C'est difficile à lire comme rachat. C'est vraiment. Ça a été la surprise. Moi, jamais, j'aurais dit oui, bien sûr que Bandcamp va être acheté par Epic Games.
En tout cas, en conclusion de cette partie, ce que je souhaitais illustrer, et c'était un peu le sens de toute notre discussion, c'est que c'est un peu le bordel tout ça. Dans le sens, en tout cas, ça bouge tout le temps. C'est pas juste un truc, ok, modèle Spotify, tout le monde copie ça, etc. C'est qu'il y a plusieurs façons de faire, et puis il y a des convergences à des moments, ils essaient de faire comme les autres, et puis ils s'en écartent, etc. Donc c'est difficile d'avoir une vision vraiment du futur. L'industrie musicale n'est pas encore sortie. C'est plus l'ère du disque, quoi. C'est plus, il y a un truc très ancré. C'est comme ça, ça marche. Ouais. Là, c'est sans cesse. On teste ça, on fait ça. Il y a machin qui fait
ça. Parce que la révolution n'est pas achevée. Mmh. En fait, on est encore dans le temps de la révolution. On n'est pas encore dans le temps de la consolidation. Et d'ailleurs, on sait qu'il y aura une consolidation à un moment, qu'il y aura des rachats de plateformes, des disparitions, des fusions, etc. On le sait. Peut-être que Bandcamp et Epic Games annoncent ce temps de la consolidation. Et on est encore dans l'invention d'un nouveau siècle de l'écoute. On dit que le streaming est né en 2007. Effectivement, c'est vrai, 2006-2007, Deezer, Spotify. Mais
c'est 2015 en réalité.
La vraie naissance du streaming, c'est 2014-2015, c'est les playlists. C'est à partir des playlists où le streaming naît vraiment, où l'écoute en streaming, l'écoute illimitée, la recommandation, tout ça, où tout se structure. 2015, c'était il y a 7 ans. Donc c'est rien du tout. Et même à l'échelle de la révolution numérique, c'est rien du tout. Donc on en a encore pour 5, 10 ans, 15 ans, avant que le modèle soit tranquillou, que tout le monde soit assis sur son modèle. Et encore, la vraie différence, c'est que regardez combien de réseaux sociaux sont apparus depuis 10 ans. Il y en a un nouveau tous les deux ans qui chasse l'autre. La vraie différence, c'est que le XXe siècle, on vendait un objet physique. Donc remplacer un objet physique par un autre, c'était compliqué. On n'allait pas le faire tous les deux ans. Ça a été compliqué de remplacer le 78 tours par le 33 tours, le 33 tours par le CD, la cassette au milieu, etc. Là aujourd'hui, les choses, elles se réinventent tous les 3 ans, tous les 5 ans. Donc probablement qu'on va avoir un monde de la musique qui va continuer à se transformer fortement pendant très longtemps encore.
Bon, c'était très intéressant en tout cas ce petit panorama comme ça. Essayons, de manière peut-être plus concise, dans une deuxième et troisième partie, de voir l'impact que ça a, tout ce dont on a parlé, sur les artistes et les auditeurs. Et peut-être dans un premier temps sur les artistes. Typiquement, toi, quand tu mets un morceau en ligne, est-ce que tu sais comment ça va fonctionner, la rémunération? Est-ce que tu sais ce que tu vas toucher? T'as conscience un peu de tout ça?
Non, mais je mise pas dessus, moi, donc je m'en fous. Tu vois, je le fais vraiment pour l'amour de l'art, finalement.
Pour la cause.
Pour la culture. moi, c'est des questions que je me suis jamais vraiment posées. Ouais. Je sais, quand je vends, je fais de la musique à l'image, machin, etc. Et ça, du coup, j'ai des tarots. Mais sinon, je plaude et puis après, je vois. Un mois plus tard, tiens, j'ai fait autant. Ah, oh, c'est marrant ça, tu vois. Et j'observe et j'apprends, tu vois. Mais
parce que de toute façon, tu passes forcément par un distributeur. Enfin, tu dois passer par.
Alors avant, j'étais vraiment en full indé, donc je passais par DistroKid, machin. Maintenant, je suis chez un label, donc ça se passe différemment. Mmh. J'ai moins d'outils pour suivre moi-même sur mon téléphone les chiffres, les machins, etc. Mais je fais beaucoup plus d'argent.
Tu fais beaucoup plus d'argent quand même. Parce que expliquons quand même un peu le principe Bandcamp, on l'a dit, c'est un modèle particulier, les gens achètent directement, etc. SoundCloud, modèle économique, il y a de l'abonnement en théorie, mais...
Ouais, SoundCloud gagne de l'argent plutôt avec l'abonnement des musiciens eux-mêmes.
Ouais, c'est ça.
Qui payent SoundCloud pour utiliser, voilà, pour utiliser le service.
Okay.
C'est plutôt ça le modèle économique de SoundCloud, c'est pas forcément l'auditeur
qui va rémunérer
qui rémunère, ouais. C'est plutôt les artistes qui payent SoundCloud. c'est un outil d'échange de musique, c'est un outil professionnel d'échange, c'est comme un WeTransfer ou tout ça, en fait, c'est un peu ça. Je me paye un compte parce que en fait ça me sert tous les jours et ça me permet d'avoir un SoundCloud pour aller envoyer à des gens, pour des marchés, pour envoyer à des tourneurs, des machins, des trucs, c'est un outil technique.
Et puis ensuite, on a le streaming évidemment, audio ou vidéo d'ailleurs, parce que c'est à peu près le même fonctionnement avec YouTube. En gros, t'es obligé de passer. Alors, quoi que YouTube, c'est différent parce que tu peux uploader toi directement le truc. Mais bon, à l'inverse des plateformes purement audio où tu peux pas, en tant qu'artiste, comme ça, du jour au lendemain, dire je fouille sur Spotify.
Si, si, si,
aujourd'hui. Tu peux passer par un intermédiaire.
Faut passer par un intermédiaire, mais.
Type DistroKid.
DistroKid, TuneCore, il y en a d'autres.
C'est très accessible, mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas un rapport direct avec la plateforme.
Non.
C'est ça que je veux dire. Et c'est quand même important.
Mais en tout cas, c'est quand même très facile. C'est une vraie révolution. À l'époque du disque physique, c'était autrement plus compliqué d'aller se rendre disponible. On pouvait se rendre disponible dans le magasin du coin de sa ville, éventuellement faire le tour des magasins, mais ça demandait du boulot. Aujourd'hui, on peut vraiment être disponible dans le monde entier sur toutes les plateformes pour quelques euros par mois pour un morceau ou pour un album. C'est faisable. Voilà.
Et on a des basiques type ouais, DistroKid, iMusician, etc. Puis après des aspects plus professionnels qui vont offrir des services en parallèle, des idols, des choses comme ça, des boîtes de distribution. Derrière ça, donc on passe par ces services pour mettre sa musique. Ensuite, en gros, le principe, c'est que la plateforme, alors ça va dépendre du contrat déjà, si jamais on est signé par exemple, parce qu'on ne va pas toucher les mêmes pourcentages en fonction du contrat qu'on a, contrat d'artiste, etc. Ça ne va pas être la même chose aussi en fonction des plateformes en elles-mêmes. Donc ça paraît un peu compliqué tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quel est le modèle global ? Je suis artiste, je passe, j'upload ma musique sur les plateformes. Qu'est-ce que je vais toucher ? Quels sont les facteurs qui vont modifier ce que je touche ?
Eh bien, tout. Absolument tout. C'est ça qui est compliqué à comprendre. En gros, on peut dire qu'il y a... aujourd'hui, il va y avoir trois grandes typologies d'artistes. Il va y avoir les artistes qui vont en direct, avec les TuneCore, DistroKid et compagnie.
Label, sans maison de disque.
Sans label, sans maison de disque. Enfin, ils peuvent avoir un label, une maison de disque, par ailleurs. S'ils ont un label, en général, le label va passer par leur propre distributeur. Mais bon, souvent, ils sont leur propre label. Voilà. Et eux, ils vont toucher 100% des revenus. Et vous imaginez bien que si TuneCore reverse ou DistroKid reverse 100% des revenus, c'est que en fait il y a quand même une grande majorité des artistes qui vont jamais faire de revenus tout court en fait, enfin, qui vont jamais faire des revenus qui vont dépasser le prix de l'abonnement, parce que le business de ces boîtes là c'est comme l'auto-édition en gros.
Après vous vous démerdez, votre œuvre est disponible,
personne vous écoutera parce que vous n'êtes pas visible.
Ouais.
Donc pour être visible, il faut aller passer par une maison de disques ou une maison de service, quoi. Aujourd'hui, on dit label, maison de service. On va soit signer à l'ancienne, en contrat d'artiste. Mm-hmm. Le contrat d'artiste, c'est vraiment le contrat qui existait depuis toujours. C'est, j'arrive avec ma musique ou des idées de chansons ou des pistes de chansons et un label me paye une avance pour les terminer, paye le studio, paye les musiciens avec qui je vais bosser, m'accompagne artistiquement, me fait le marketing, la fabrication s'il y a du physique, la distribution, et surtout va me représenter auprès des plateformes pour me pousser et auprès de éventuellement de la presse s'il y a besoin, etc. Ça, c'est un modèle qui a pas disparu. J'ai été surpris de voir que Rosalia est en contrat d'artiste chez Sony, par exemple. Donc, ça fonctionne encore pour des artistes. Il y a des artistes qui sont encore contents de ça parce qu'ils ont trouvé les bonnes personnes dans une maison. Ils ont trouvé des bons liens et ils sont contents comme ça. Mais dans ce modèle-là, un artiste va récupérer à la fin, avec les histoires d'abattement, de machin, il y a plein de pièges dans tout ça. Un artiste va récupérer souvent moins de 10%, moins de 5%. Alors, j'imagine que Rosalia, elle est à 20%, j'espère pour elle. Mais c'est le modèle à l'ancienne, c'est le modèle de l'époque du disque physique où il fallait être une maison de disque pour fabriquer du disque. Il fallait fabriquer des objets, il fallait les mettre dans un camion, les transporter, les mettre dans un magasin, aller chercher les sous, etc. Donc il y avait vraiment un boulot physique qu'il fallait être une maison de disque pour faire ce boulot-là. Donc les artistes confiaient leur musique à ça, parce qu'en fait, on confie son œuvre à une maison de disque pour tant d'albums, et on est presque salarié, ouvrier de cette maison de disque. Avec le streaming, et notamment les rappeurs, ont compris que ça pue à rien, ce contrat d'artiste, parce que on peut aujourd'hui, on a les outils de production, un ordinateur et du matériel accessible à plein de gens permettent de produire de la musique. On a les outils de distribution beaucoup plus facilement, en tout cas la distribution physique c'est fini, etc. On a les outils de communication, les réseaux sociaux, la communauté, on va aller sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et donc, pourquoi aller lâcher 90% de ses revenus à une maison de disques qui va finalement faire que le marketing?
Et parfois, d'ailleurs, le marketing, on le fera mieux nous-mêmes parce qu'on comprend notre cible, notre communauté, etc.
Voilà. Et donc, c'est là où on arrive au contrat de licence, où il y a toute une gamme de contrats de licence, les co-exploitations, etc. C'est assez technique. Le contrat de licence, c'est le modèle de plein d'artistes, de quasiment tous les rappeurs et les rappeuses, mais aussi d'Angèle, de plein de gens, hein. Souvent, vous voyez, sur les plateformes, il y a une sorte de label que vous n'avez jamais entendu parler, Under License to Sony, Warner, machin, BMG. Et donc, les artistes sont leur propre label, ou en tout cas, ont une structure qui est portée par quelqu'un d'autre, parce qu'en France, on ne peut pas être artiste et label. Donc, il y a une structure qui est portée par quelqu'un, et qui est le label de l'artiste, qui des fois va en signer d'autres, mais globalement, c'est toujours le label d'un artiste, qui va aller voir Sony, Universal, Warner, n'importe qui, et en disant, voilà, moi je suis Angèle, je produis ma musique, c'est-à-dire que moi qui la paye. C'est moi qui la paye, j'ai payé le studio, j'ai payé toute la production, le mixage, le mastering, mais j'ai besoin de fabrication physique, j'ai besoin de promotion, j'ai besoin de passer sur TF1, parce que je suis Angèle, donc j'ai besoin de cette audience-là. J'ai besoin d'aller chez RTL, chez machin, chez bidule. Moi, j'ai pas les contacts, j'ai besoin de vous pour ça, et voilà, voilà à quoi sert la maison de disque pour... Alors, quand on est Jules, en fait, c'est Music As Believe. Ça sert juste à mettre les disques sur Internet et Jules, il fait tout seul. Quand on est Angèle ou plein d'autres personnes, la maison de disques, elle va avoir un rôle de divers et variés. Des fois, la presse, des fois, du physique, des fois, un accompagnement artistique aussi. Les artistes, ils ont besoin d'être accompagnés artistiquement. Des fois, ils savent pas où ils en sont, ils savent pas si ce qu'ils font, c'est bien, ils savent pas quelle est leur cible, ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire après. Donc, une maison de disque, ça sert à ça quand même.
Donc, il y a plusieurs façons d'être entouré, il y a plusieurs intermédiaires, etc. Mais pourquoi, trop souvent, les artistes se plaignent des sommes qui vont être perçues derrière? Est-ce que c'est parce que les plateformes sont des radins? C'est eux, en gros, qui décident ce qu'ils envoient? Ou est-ce que c'est, en fait, les maisons de disques avec qui on a dealé, etc., qui, elles, ont l'argent? Et en fait, les pauvres plateformes, elles n'ont pas le choix, elles sont déficitaires, c'est compliqué pour elles, etc. Comme un Spotify, par exemple, qui ne gagne pas tant que ça, en fait, chaque année, mais qui, en réalité, s'est tellement installé qu'il y a un potentiel, on le sait, très important. Pourquoi? Pourquoi il y a si peu de thunes pour les artistes?
En fait, il y a plein de thunes.
On est d'accord.
Il y a plein de thunes. Il y a plein de thunes. Là, tous les chiffres sont en train de sortir en France, à l'international. On est dans des chiffres. En fait, on revient petit à petit. On sait que dans 2, 3, 4 ans, on sera revenu au sommet de 2002, typiquement pour la France, qui est le pic ever. De la musique.
Je crois que 2021 aux États-Unis c'était la plus grosse. Alors avec l'inflation c'est pas exactement vrai, mais en réalité on commence à atteindre des chiffres.
On est en train de revenir et on sait que dans les années à venir il y a plus qu'à dérouler. Vraiment l'argent est là, l'argent est de retour, il y en a plus que jamais. C'est pas pour rien que des gens ont claqué 500 millions pour acheter le catalogue de Bob Dylan ou Neil Young. Hein. C'est qu'il y a de l'argent quand même dans le monde de la musique en ce moment. Donc il y a énormément d'argent. C'est pas un problème de revenus, c'est un problème de est-ce qu'il y en a assez pour tout le monde et comment il va chez les gens. Il y a plusieurs problématiques. Déjà, clairement, il y a trop de musique. Il y a trop d'artistes. Il y a trop de chansons. C'est des dizaines de milliers de morceaux qui sont uploadés sur les plateformes tous les jours. Donc, mécaniquement, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est sur la plateforme qu'on va gagner de l'argent. Et comme Michel et sa guitare qui jouaient avant dans sa ville et qui allaient faire le tour des bars et qui vendaient un peu des CD, etc., il y a plein de gens, ils sont sur les plateformes. Michel et sa guitare, il est sur les plateformes aujourd'hui, mais il va toujours pas gagner beaucoup d'argent. Ça n'empêche pas que sa musique peut être super intéressante, ça n'empêche pas qu'il ait une vie d'artiste, etc. Mais voilà, il y a vraiment cette problématique de dilution par la masse qui ne fait que commencer. Parce qu'on arrive sur des pays comme l'Inde, le Brésil, la Chine et le Nigeria, où ils sont un tout petit peu nombreux. Donc on va avoir, donc ça fait un vivier de créativité impressionnant, mais une dilution aussi problématique.
Et qui est, d'une certaine manière, provoquée aussi par les plateformes, avec un modèle économique, on parle souvent de pot commun, qui justement a tendance à valoriser plutôt les gros, plutôt que de séparer réellement les revenus entre les artistes. C'est-à-dire que... dans le prix d'un abonnement de quelqu'un, si je dis pas de bêtises, hein, c'est toi qui me corrigeras, dans le prix d'un abonnement qu'on va payer, en fait, c'est pas les gens qu'on va écouter qui vont récupérer de l'argent divisé ensuite en fonction de ceux qu'on a le plus écouté, etc. Si on va prendre la somme globale, on va prendre tout ce qui a été écouté sur Spotify et ensuite on va répartir, si Drake a fait 40% des écoutes sur ce mois-ci, 40% du prix de mon abonnement, mais si j'ai jamais écouté Drake, il va revenir à Drake.
En gros, c'est la part de marché, voilà.
Donc c'est aussi ce dont tu parlais, le fait de la dilution parce qu'il y a trop nombreux. C'est pas seulement qu'ils sont trop nombreux, c'est qu'aussi le modèle économique ne favorise pas la répartition plus juste aussi.
Oui, alors c'est... Alors, le modèle économique des plateformes de streaming, déjà, il a été choisi par les maisons de disques. Rappelons-le, quand Deezer et Spotify sont nés, c'était une idée folle à un moment où les maisons de disques vendaient du téléchargement. Elles sont allées un peu vers le streaming en se disant c'est pas inintéressant leur truc, et elles ont imposé à Deezer et à Spotify un modèle économique qui leur paraissait acceptable. Et donc le 70-30, c'est-à-dire 30% pour les plateformes, 70% pour le monde de la musique, enfin les acteurs de la musique, ça a été choisi par les plateformes de streaming. Et d'ailleurs, c'était à peu près le partage entre les magasins de disques physiques et les maisons de disques. Ils ont repris à peu près ce partage-là. Donc, les 30% des plateformes, ils sont... peut-être que c'est trop. Mais en tout cas, personne dans le milieu trouve ça... Enfin, personne qui s'y connaît et qui sait comment tout ça fonctionne, trouve que c'est scandaleux, parce que c'est le partage historique, un peu. C'est pas délirant, personne trouve ça délirant. La problématique, elle est effectivement en dessous. Elle est déjà sur comment on redistribue cet argent. Tu disais, il y a aujourd'hui le modèle prorata qui a été imposé, qui a été choisi par les maisons de disques, qui a tendance à avoir un effet de bord, c'est winner takes all. C'est vraiment, il y a une prime au vainqueur, et donc quand il y a une prime au vainqueur, il y a une non-prime à ceux qui sont derrière. Ça a des effets très positifs pour tout un tas d'artistes. Ça a des effets négatifs, c'est-à-dire que ça a tendance à concentrer la richesse et donc les investissements en production sur des nouveaux artistes derrière, sur les musiques les plus écoutées en termes de volume. Et on sait que pour toujours, le volume d'écoute sera généré par les 13-25 ans, parce qu'on découvre la musique, on a que ça à faire. On a 8 heures par jour de musique dans le bus, etc. On écoute de la musique tout le temps, on a envie de découvrir tous les tubes du moment, on se partage la musique avec les potes, et c'est les années de formation artistique, c'est valable pour le cinéma, pour tout. Donc, les 13-25 seront toujours ceux qui écoutent le plus de la musique, et donc, tant qu'on change pas de modèle économique, la musique des 13-25 sera toujours, que ce soit du rap aujourd'hui ou une autre musique demain, sera toujours la musique la plus rémunérée, aux dépens d'autres musiques, parce que les maisons de disques vont pas se dire, moi je vais aller produire de la musique pour les vieux, parce que c'est pas ça là qui est rentable, en fait c'est la musique pour les jeunes. Donc il y a des effets comme ça de c'est négatif sur la diversité musicale. Et l'autre effet considéré par plein d'acteurs comme négatif dans du modèle actuel de ce qu'on appelle market share prorata, c'est que il y a des artistes qui sont, disons, au milieu de tableau, qui sont ceux qui souffrent de ce modèle-là, parce que eux, ils ont un public, mais il n'est pas gigantesque. Par contre, il est super engagé, mais il ne stream pas assez. C'est juste, c'est un public qui va être, qui écoute beaucoup, mais qui n'est pas assez, il n'y a pas assez de volume, en fait. Et donc, les artistes se retrouvent un peu tirés vers le bas, alors qu'ils ont une vraie vie artistique, des vrais fans, etc. Et donc, la proposition, c'est de changer, c'est le fameux modèle du user-centric, c'est-à-dire qu'on arrête la part de marché et on part de l'utilisateur, c'est-à-dire que moi, mon abonnement va aller au prorata, mes 9 euros et quel, enfin mes 7 euros sur les 10, aux gens que j'écoute. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quels seraient les effets bénéfiques et les effets négatifs.
Deezer avait sorti une
voilà, il y a des...
c'était pas très profond, mais
Deezer est assez...
ils essayaient d'imaginer ce que ça donnerait.
Voilà.
Et notamment, ce que tu disais sur la diversité musicale, ils estimaient, alors ça ferait un peu perdre, ce qui fait pas plaisir d'ailleurs aux gens du rap en général, ça pourrait leur faire un peu perdre, mais que ça bénéficierait au jazz, au rock.
Ça peut bénéficier à une diversité musicale, ça va bénéficier aux genres locaux. Beaucoup. Et ça va bénéficier à ces artistes un peu de milieu de tableau, ça peut être intéressant. Après, clairement, alors, moralement, c'est bien, ce modèle user-centric, c'est toujours difficile à dire. Okay. Il est intéressant moralement parce que c'est un peu bizarre de payer des artistes qu'on n'écoute pas, clairement. Il y a un truc un peu bizarre. Et donc, inversement, de dire, en fait, je donne quasiment pas d'argent à des artistes que j'écoute en boucle.
C'est fou.
C'est un peu dommage. Par contre, aller dire aujourd'hui aux rappeurs « on va vous enlever des revenus », c'est, à mon avis, compliqué, inaudible, et il ne faut pas le faire, parce que c'est justement... le rap a été tellement maltraité par les maisons de disques et par le monde de la musique globalement pendant longtemps, et là, en fait, c'est son moment, quoi. Mmh. C'est son époque. Donc, c'est pas le moment d'aller leur enlever de la thune. Peut-être qu'il faut attendre qu'on passe à une autre époque musicale, à un autre truc, ou que le rap aujourd'hui, c'est devenu la pop, la variété, tout en même temps. Donc, on est en train petit à petit de passer dans une autre génération, etc. Mais aller dire à des artistes qui ont galéré dans les années 2000, là maintenant, t'en as bien profité pendant 5 ans, on va t'enlever des revenus. C'est compliqué, je trouve, aujourd'hui, et ça serait un peu une sorte de nouveau.
D'accord, et en même temps, si c'est une forme de solidarité vis-à-vis de ceux qui n'arrivent pas à en bouffer alors qu'ils mériteraient parce qu'on les écoute.
Oui, mais ils ont subi une non-solidarité eux-mêmes. Donc c'est un vrai débat dans le monde de la musique aujourd'hui. Voilà, c'est un vrai débat sur ce sujet-là.
Pour conclure sur ce sujet, c'est en plus un truc qui tient à cœur, Michel.
J'adore le rap.
T'adores le rap, mais surtout sur le futur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Est-ce que tu as une idée d'un modèle ? Ou un modèle déjà existant que l'on pourrait étendre, dont pourrait, par exemple, s'inspirer un Spotify, un truc dans le genre, qui serait plus vertueux, entre guillemets, qui permettrait de mieux répartir l'argent, ou en tant qu'auditeur, on se dirait, OK, j'ai l'impression d'aider aussi l'artiste, entre guillemets, ou en tout cas que ce soit juste ce qu'on lui propose derrière.
Alors, déjà, le modèle actuel, il est aussi vertueux que non vertueux. Il n'est pas mature. On n'est pas arrivé au bout du chemin. Par exemple, on dit souvent, oui, les plateformes, blablabla, on leur tape beaucoup. Moi, je veux pas, c'est pas pour les défendre, c'est pour dire que, en fait, tous les acteurs ont un rôle là-dedans. Et les plateformes ont un rôle, les labels ont un rôle en n'enfumant pas les artistes et en se faisant pas de la thune de façon irresponsable sur leur dos. Les distributeurs ont un rôle aussi de la même façon. Ils prennent un fric fou et ils font pas toujours le boulot pour tous les artistes, on va dire. Ils vont faire le boulot pour les priorités, les autres, ils les oublient. Sauf qu'ils prennent la même chose sur le dos de tout le monde. Donc, les distributeurs ont aussi un grand rôle. Enfin, tous les acteurs ont un rôle. On va prendre de l'argent sur les tournées, etc. Et à la fin, c'est les artistes, en fait, qui souffrent. Mais ça, c'est depuis que le monde de la musique existe, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment les plateformes ont évolué ces dernières années, par exemple. Toutes les plateformes, Spotify, Deezer notamment, ont beaucoup travaillé ces dernières années pour rendre un peu plus de choses à la diversité musicale, travailler des playlists notamment qui racontent l'histoire de la musique, qui vont descendre dans l'underground. On a des playlists, moi je suis régulièrement surpris par des playlists. Je suis tombé un jour sur une playlist qui s'appelle Women of Ambient, c'est vraiment les femmes de l'ambiance musique. Okay. C'est une playlist avec que de l'ambiance musique faite par des femmes. Vachement bien, super playlist.
C'est une playlist éditoriale, c'est-à-dire que c'est la plateforme elle-même
éditoriale de Spotify. Spotify, moi j'écoute beaucoup d'ambiance, ils ont une playlist l'ambiance des années 90 qui est vachement bien. Ils vont avoir des playlists de trucs de niche, de grindcore japonais, de trucs vraiment, ils sont en train de faire ce boulot-là de montrer qu'ils respectent la musique, et donc ces playlists-là génèrent du bienfait, des revenus, c'est-à-dire que être dans une playlist éditoriale, ça fait du revenu, ça fait du truc, c'est important. Donc, sauf que, il y a encore 3 ans, quand on faisait de l'ambiance, on était dans 0 playlist éditoriale, parce qu'il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, il y en a. Donc, petit à petit, le modèle, il est en train de s'affiner, de se corriger, de mieux respecter un peu tout le monde. Et peut-être que dans 5 ans, les artistes qui aujourd'hui se disent pas respectés, perdus, pas rémunérés, vont dire ah, en fait, c'est pas si mal. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai refait un papier il y a pas très longtemps là-dessus, où je refaisais le tour de labels qui, il y a 2-3 ans, me disait, moi le streaming, je suis à deux doigts d'arrêter, je vais me concentrer sur le vinyle, parce que je bosse beaucoup, je gagne rien. Et aujourd'hui, en fait, ils disent, ah ouais, en fait, je vois que, en bossant comme ça, je vois aussi que les plateformes, elles ont évolué, je vois que, là, maintenant, j'arrive à des choses, en fait, j'arrive à des choses qui commencent à être intéressantes, j'arrive à trouver des nouveaux publics, je génère des nouvelles tournées, ça commence, en fait, on commence à avoir un peu un changement d'état d'esprit
au milieu de tout ça. Et en même temps, il restera des freins qui me semblent, enfin, je sais pas si on pourra dépasser ça. On sait par exemple que le CEO de Spotify disait, bah les gars, il va falloir vous habituer à sortir beaucoup plus souvent de la musique. Toutes les semaines, vous devez sortir un morceau. Enfin, je sais plus s'il l'exprimait de cette manière. Mais en gros, clairement, là, tu me dis, on peut trouver des ajustements, etc. Pour un artiste qui va se dire, moi, mon temps artistique, ma temporalité artistique n'est pas la même qu'un mec qui blaste toutes les semaines, tous les mois.
C'est pas recevable.
Lui, il s'est foutu pour lui.
Et puis surtout, c'est pas recevable. On a l'impression qu'on se moque de lui. Et quand Daniel Ek va investir l'argent qu'il a gagné avec sa plateforme qui a fait son argent sur la musique, et va investir son argent à lui, il fait ce qu'il veut, mais il investit dans une entreprise qui travaille avec le secteur de l'armement. Quand on est un musicien, et même quand on est un auditeur et un abonné, c'est pas recevable, c'est pas audible. On peut pas dire, moi je fais mon argent avec la musique, qui est quand même très majoritairement un art qui prêche l'amour et la paix, globalement, sans caricaturer, c'est quand même ça, beaucoup l'histoire de la musique, et la drogue et l'alcool, certes. Mais voilà, on peut pas aller investir son argent dans le secteur de l'armement, c'est pas audible. Donc, mais ça fait aussi partie de lignes de crispation, même au sein même des plateformes. C'est-à-dire que même au sein même de Spotify, il y a des gens qui se sentent pas à l'aise avec ça. Et qui se sentent pas respectés et qui sont pas sur cette ligne-là et qui savent que Daniel Ek qui dit n'importe quoi. Enfin, en fait, il dit pas n'importe quoi. Il prêche un modèle, mais qui est un modèle marketing, commercial, etc. Mais au sein même de la plateforme, il y a des tensions et des gens qui disent non, mais il y a différentes temporalités d'artistes, il y a différents artistes, il y a différentes musiques, la musique elle est diverse et il faut qu'on la travaille dans sa diversité et dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle veut dire et dans ce qu'elle veut être, etc. Et on peut pas plaquer le même modèle à tous les artistes. C'est un débat qui existe au sein des plateformes. Il est pas visible à l'extérieur parce que personne peut parler, etc. Mais moi je l'entends, en discutant avec les gens des plateformes, on le voit, on le sent, il y a une tension qui existe. Donc on va rentrer dans un autre monde du streaming. On va rentrer.
Je crois que ça peut venir de l'intérieur, toi en tout cas.
C'est ce que je disais avec Bandcamp tout à l'heure, faire naître un nouvel acteur du streaming, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux, quand on voit avec Tidal, le fric qui est mis dedans, et c'est une plateforme qui représente pas grand-chose aujourd'hui, se dire qu'un nouvel acteur va réussir à prendre une place importante pour peser là-dedans, c'est difficile à dire. Donc, avoir une discussion à l'intérieur et faire changer les plateformes de l'intérieur, c'est aussi, en tout cas, une piste qui est intéressante. Donc, le monde actuel du streaming, il est pas achevé. Et pour continuer, tu disais quelles sont les idées qui peuvent être intéressantes vers où on peut aller. Clairement, je l'évoquais tout à l'heure, ce qu'on appelle la fan économie, c'est vachement intéressant. Et clairement, c'est très probablement une des pistes majeures des plateformes, c'est-à-dire de construire un lien entre les artistes et leurs fans. Aujourd'hui, le lien il est quasi inexistant sur les plateformes elles-mêmes. En fait, le lien il va se faire sur les réseaux sociaux et sur d'autres plateformes, mais sur les grands acteurs du streaming, à part écouter de la musique, en fait, on peut rien faire. On peut s'abonner à un artiste, on peut écouter sa musique, mais c'est tout. Il y a un peu de merchandising par-ci par-là, c'est pas très bien fait. Et pour les artistes, à part faire des mailings pour vendre des places de concert en avant-première ou des choses ou pousser la sortie d'un single, etc. les outils sont pas époustouflants non plus, quoi. Et donc, il manque une couche, ce que les plateformes asiatiques font très bien. On en a pas parlé, mais plateformes comme QQ Music à partir de Tencent, qui est un investisseur de Spotify, comme Melon en Corée du Sud, qui est une grosse plateforme qui existe quasiment qu'en Corée du Sud, mais qui est plus gros que Deezer. Et Melon, ils font ça très bien. Melon, il y a vraiment une couche de liens, de fans. On peut, alors évidemment, on peut acheter des places de concert, on peut acheter du disque physique, on peut acheter des t-shirts, on peut tipper l'artiste avec vraiment des systèmes de pourboire. On peut s'abonner de façon payante à un artiste pour avoir des exclus, pour aller voir des... Et là, on a le droit à un live par mois en exclu. Alors, c'est un live vidéo, c'est un live visio, mais en exclu, ou des chats avec les artistes, enfin... Tout ce que font les influenceurs, les TikTokers, les gens sur Twitch.
Oui, c'est un Tipeee Twitch, dédié à la musique. Quoi.
C'est ce qui se passe sur Twitch, typiquement. Ouais. On est vraiment dans ce cas. Et donc Twitch, enfin ce qui se passe sur Twitch est en train d'influencer fortement ce qui se passe dans le monde de la musique, clairement.
Mais t'as raison, mais tous les financements en fait plus directs.
Ouais, Tipeee, il y avait
Ou même Patreon, c'est le fonctionnement d'OnlyFans, voilà, exactement. Mmh. Et donc, toute cette économie-là, cette fan-économie-là, aujourd'hui, dans le monde de la musique, il y a des artistes il y a des musiciens qui sont sur Patreon, sur OnlyFans, sur Tipeee. Et moi, l'autre jour, j'ai fait un papier avec un musicien qui s'appelle Kim, qui est un musicien qui fait de la musique à guitare, pop folk, il produit énormément de musique, lui, son truc, il sort 10 disques par an, il n'arrête pas. Et en fait, il aime bien expérimenter les nouvelles formes, et il a lancé un Patreon. Il me disait, mais en fait, moi, j'ai 10 abonnés sur Patreon, je gagne déjà plus d'argent que sur Spotify tous les mois. Donc, pour un petit artiste comme lui, c'est intéressant.
Oui, c'est pas si étonnant.
C'est pas beaucoup d'argent. C'est pas beaucoup d'argent, c'est quelques centaines d'euros. Mais pour lui, c'est plus que ce qu'il gagnait avant.
Le défi va être, parce qu'on l'a dit, les aspects communautaires sur les plateformes traditionnelles ont jamais, peut-être qu'ils n'ont pas été bien faits, mais ça n'a jamais complètement pris. Par contre, je suis persuadé que dans leur modèle, dans leur idée de business, d'un point de vue purement industriel, s'ils arrivent à récupérer une partie de la communication entre les artistes et leur public, c'est extrêmement intéressant, parce que tu peux le monétiser, ça, il peut y avoir de la sponso, etc., de la publicité.
Et on peut prendre une partie des ventes. Enfin,
évidemment. Donc,
tout est possible. Donc... On va rentrer dans ce monde-là, peut-être. En tout cas, moi, je trouve que c'est une piste intéressante. Alors, est-ce que c'est les grosses plateformes qui vont se mettre à faire ça, ou est-ce qu'une plateforme peut émerger en étant basée sur des principes différents?
Ou ça restera divisé, peut-être.
Ou ça restera divisé. Mais en tout cas, la fan économie, c'est un vrai, outil. Et puis, alors, bien sûr, les NFT se rajoutent là-dessus, parce que c'est un outil typique de vente. C'est un objet numérique, mais c'est un objet qui permet de vendre quelque chose. Et on rentre dans ce nouveau monde, et les fans et les artistes ne demandent que ça, en fait. Donc ça va être intéressant, je pense, de ce côté-là.
Pour conclure ce podcast, on voulait faire une dernière partie d'un point de vue un peu plus auditeur. Je vous propose de la résumer en une question. Comme ça, ça nous donnera peut-être une petite idée. Est-ce que tu as des conseils aux gens pour découvrir de la musique? Que ce soit à travers les plateformes, d'autres différents acteurs. Je sais pas, comment on peut découvrir de la musique sur Internet de plusieurs manières aujourd'hui? Est-ce que tu as des conseils à donner?
Il n'y en a qu'un, c'est être actif.
Non, mais, oui.
Non, mais c'est hyper basique comme conseil. Mais c'est le cœur du truc, parce que les plateformes, on parle souvent d'enfermement algorithmique, la bulle de filtre, etc. C'est une réalité. Parce que les algorithmes ne peuvent pas vous connaître mieux que vous-même. Enfin, c'est compliqué. Ils s'affinent. Il y a du machine learning. Aujourd'hui, il y a quand même des outils qui sont assez puissants. Mais au bout d'un moment, vous allez vous enfermer mécaniquement parce que c'est comme ça que ça fonctionne, techniquement. Et donc, la meilleure façon de découvrir de la musique sur Internet, c'est de multiplier ses sources, de ne pas s'enfermer sur une plateforme et de ne pas se contenter des recommandations de la plateforme elle-même, parce qu'au bout d'un moment, il y a un enfermement et on finit par s'ennuyer, etc. Je trouve que avoir des personnes de confiance, que ce soit sur des réseaux sociaux, sur des plateformes diverses et variées qu'on va suivre, et aller taper des noms dans les plateformes de streaming, aller suivre des artistes, etc., et nourrir la bête. En fait, je pense que...
Travailler un algorithme, par exemple, ça, vraiment, il faut nourrir l'algorithme, en fait, ça marche, ça?
En fait, l'algorithme, il faut pas considérer qu'il est là pour vous envoyer de la musique, mais il faut le nourrir pour qu'il vous serve, en fait. Je trouve que c'est un... alors, ça marche pas toujours, Mais vraiment, on gagne toujours à aller ajouter des choses, ajouter des mots, taper des mots-clés, taper des noms d'artistes, suivre les artistes, alors glisser des morceaux dans sa playlist, etc. Évidemment, ça influence fortement l'algorithme, mais vraiment, et aller sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire lire un bouquin et noter des trucs, un magazine, soit papier ou web, on s'en moque, mais des documentaires, noter les noms des artistes, Shazam, aller taper des Shazam, etc. Voilà, Shazam, ça marche vachement. Ouais. Et en fait, le plus on fait bouger les choses, plus les choses bougent. C'est vraiment un truc. Les plateformes de streaming sont des outils, sont des objets qui sinon sont inertes. L'un des trucs qui marche très bien sur beaucoup de plateformes, c'est le système de radio qu'on peut déclencher à partir d'un titre ou d'un album, par exemple. Ça marche pas mal parce que souvent on va aller découvrir des choses qui sont dans l'univers, mais qu'on connaît pas forcément et tout. Donc ça, c'est plutôt, je trouve, souvent même mieux que les algorithmes, que la recommandation purement, recommandation de la semaine, les trucs, découvertes de la semaine et tout. Mmh. Et donc en fait, je disais, être actif, vraiment, c'est le truc bête, effectivement, mais plus on est un utilisateur ou une utilisatrice active sur une plateforme, plus on va être récompensé en retour par la machine qui travaille pour soi et pas pour la plateforme, en gros. Parce que sinon, les algorithmes, ils sont davantage faits pour travailler pour la plateforme dans le sens où ils vont aller vous amener vers les succès du moment, dans votre zone de confort, en fait. Ouais. Et alors, si ça vous convient, tant mieux. Mais si vous avez envie de découvrir de la musique, allez nourrir la bête et attendre qu'elle vous rende ça fois 100, parce que c'est... Et là, à ce moment-là, ça devient génial, parce que pour le coup, alors moi, je peste tous les jours contre l'algorithme de Spotify ou d'autres, parce que j'aimerais bien plus, parce que moi, je m'en sers pour découvrir de la musique, et des fois, j'en ai un peu marre qu'ils me recommandent toujours les mêmes trucs. Mais faut quand même rappeler qu'on vit dans un monde de découvertes potentielles incroyables. Et moi, qui suis assez vieux pour avoir vécu le monde de la rareté, où j'avais accès qu'aux disques dont j'avais accès auxquels j'avais accès physiquement, avoir vécu, ce que je raconte dans mon bouquin, avoir vécu déjà le MP3 où tout d'un coup tout était disponible, mais fallait aller découvrir par soi-même, aller les chercher ou alors aller parler à des gens qui recommandaient des morceaux, etc. C'est hyper intéressant, mais très lent. Voilà. Aujourd'hui, les playlists, les algorithmes, les réseaux sociaux, les Twitch, les YouTube, les TikTok, les trucs, servez-vous de tout pour découvrir des choses et utiliser les algorithmes à votre bénéfice et pas au bénéfice de la plateforme en étant trop passif, même si passivité, ça fait partie aussi de la vie et c'est cool de mettre une playlist à la con aussi et d'écouter ce qu'on connaît déjà. Il n'y a pas de mal du tout à ça.
Et en termes peut-être plus de curation, justement, de choix éditoriaux humains derrière, etc., est-ce que tu as quelques références, quelques sites, quelques personnes? Est-ce que c'est intégré parfois sur des plateformes où là, il y aura plus vraiment du conseil, entre guillemets
Ça dépend vraiment dans quel secteur musical. Ouais. Parce que vraiment.
Il n'y a pas des références, ou des sites même qui seraient spécialisés là-dedans, des sites de curation musicale par exemple.
De moins en moins, en fait, bizarrement. Hein. C'est ça qui est. En fait, il y a énormément de curateurs sur les plateformes ou sur YouTube, etc. Des gens qui vont pouvoir aller recommander de la musique, mais même les médias musicaux, en fait, qui font vraiment un travail comme ça, il n'y en a pas non plus. On ne peut pas dire qu'on soit dans une époque.
Il y a parce Julien que... Beats.
Comment ?
Il y a Julien Beats.
Voilà, il y a Julien Beats. Non, mais... Parce que tout le monde est curateur aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut démultiplier les sources. Moi, je me sers vraiment un peu de tout. Moi, c'est bête, mais j'écoute beaucoup la radio. Ouais. J'écoute beaucoup. En fait,
t'écoutes quoi ?
J'écoute Philippe et Nova. Ouais, en fait, mais d'autres aussi. Mais finalement, non, mais c'est bête, c'est hyper bête de dire ça. Mais en fait, les gens, ils sont payés pour être curateurs sur ces radios, c'est leur boulot. Ils font ça toute la journée. Ouais. Donc, ils sont là les curateurs en fait, FIP, Nova, d'autres radios, des radios locales chez vous, Prune FM, je crois que c'est à Tours, Prune FM par exemple, je suis passé l'autre jour, Prune FM c'est super, RBS à Strasbourg qui est une super radio, enfin il y a plein de super radios dans chaque grande agglomération, il y a la super radio où les y a Radio Campus, etc. Écoutez la radio. Vraiment, c'est une source de découverte. Enfin, ça paraît complètement dingue de dire ça, mais en fait, écouter la radio, c'est un truc un peu fou qu'on peut faire aujourd'hui pour découvrir de la musique, vraiment.
Sûr.
Et lire des livres, lire des. Enfin voilà, c'est aller et après, ouais, moi, je citais Currents.fm. Moi, j'aime bien parce que ça me permet d'aller suivre des gens qui me font sortir un peu de ma zone de confort. Voilà, moi je. Et sur les réseaux sociaux servent beaucoup aussi de veille. Moi, je fais une grosse veille sur Twitter notamment, mais ça, c'est valable sur Instagram ou sur Facebook, c'est un peu la même chose, hein, c'est les mêmes acteurs souvent. Et suivre des gens qui écoutent beaucoup de musique, des magasins de disques. Moi, je suis des magasins de disques au Japon, je comprends rien à ce qu'ils écrivent. Hein. Ils écrivent en japonais, je lis pas le japonais,
mais
etc.
Mais ils mettent un lien YouTube régulièrement.
Mais ils mettent un lien, ils mettent une pochette de disque, ils mettent un nom que je peux lire. Et du coup, je connais pas ce truc-là, tiens, je vais écouter. Ah. Et du coup, ça m'amène quelque chose qui est une anomalie dans mon écoute, et donc l'algorithme se repaît de cette anomalie et va me nourrir en anomalie par derrière. Donc c'est ça qu'en fait il faut générer des anomalies, et donc il faut aller chercher des gens qui vous sortent de votre zone de confort. Ça peut être tout bêtement une radio, ça peut être effectivement des acteurs divers et variés du monde de la musique, sur les réseaux sociaux. On est entouré de possibles infinis, donc il faut s'en servir.
Écoute, on a plein de conseils. Sofiane, tu es infatigable, mais nous, non. Je vois Michel qui commence à décliner comme petit ceci, à petit.
C'est pas ta faute du tout, j'ai juste pas beaucoup dormi comme chaque nuit.
C'était passionnant en tout cas, ouais. Très intéressant. Encore mille merci d'être venu nous voir. Peut-être un petit... où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Réseaux sociaux? Peut-être les jours, tout simplement?
Ouais, lesjours.fr, toujours, où je mène un travail d'enquête et de journalisme, vraiment sur le monde du streaming et ses différents aspects au niveau des artistes, des maisons de disques, etc. Les auditeurs, très important. La recommandation, l'effet stream, c'est un peu mon dada en ce moment, le Fextream. Et j'ai aussi une chronique...
Ça serait bien qu'on en parle à l'occasion.
J'ai aussi une chronique le samedi qui s'appelle Face A, Face B sur les jours, qui est une chronique artistique. Et l'idée, c'est de prendre un disque, donc en face A, un disque qui vient de sortir, une actualité, grande ou petite. Et en face B, de lui mettre en regard un disque ou une chanson ou un mouvement artistique. Pour les faire communiquer, les faire parler. Ça peut être vraiment, je pars d'un truc, ça m'évoque un vieux disque, ça m'évoque des artistes d'une même scène, ça m'évoque un instrument, va m'évoquer un truc. Alors des fois le lien est plus ou moins évident, des fois c'est moi qui délire un peu, mais ça permet de parler de...
C'est un exercice intéressant.
Tout un tas de musique, c'est un super exercice intellectuel, parce que toutes les semaines, il faut que je trouve un disque qui me plaît et un disque dont j'ai envie de parler en face B et qui a un lien entre les deux. De temps en temps sur RFI aussi, dans une émission qui s'appelle Musique du Monde, à la radio assez régulièrement. Et moi, je suis plutôt sur Twitter parce que j'ai quitté Facebook depuis bien longtemps.
Ou Insta.
Insta, j'y suis un petit peu, mais comme observateur, je suis quasi pas actif. Pareil sur TikTok, je suis un pur observateur parce que, en fait, mes journées sont trop chargées déjà et je peux pas avoir. Je sais pas comment on fait pour gérer plusieurs réseaux sociaux en même temps.
Nous mettrons ton Twitter dans la description.
Ouais, absolument. Vous mettrez mon compte Twitter. C'est là où je suis le plus actif en général et je parle pas mal de la musique et de l'industrie de la musique et je fais des blagues un peu nulles sur la musique aussi.
Très bien. Sofiane Fanen sur Twitter. Chronomusique sur Twitter ?
Bien sûr, sur Twitter, sur TikTok.
Sur TikTok ?
Suis-moi sur TikTok, on arrive aux 60 000, c'est légendaire. Je suis un TikToker.
Écoute, t'es un TikToker. Tu as bientôt un disque de platine et tu es bientôt TikToker. C'est ton CV.
C'est mon CV. On peut dire ça comme ça.
Exactement. Et puis, un grand merci, évidemment, à Thoman de nous soutenir pour faire cette émission. Un grand merci aussi aux gars de la bouclette qui sont autour de nous.
Et très beau.
Qui nous accueillent, qui font toute la technique, etc. Qui travaillent très, très bien. Et puis, voilà. Sofia, encore vraiment, c'était un vrai plaisir de tomber sur quelqu'un d'aussi passionné, aussi qualifié, pour nous aider à y voir un peu plus clair dans ce compliqué de la musique. Carrément. À bientôt tout le monde.
Salut.
Merci.
Merci.
Ciao.